Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur et vous écoutez Nanar Ludique, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Et vous le savez, cette émission, à chaque fois, j'essaye d'avoir des nouveaux duos de co-animateurs et co-animatrices. Et aujourd'hui, j'ai deux co-animatrices avec moi. Nous avons d'abord une personne qui n'a jamais participé à Nanar Ludique, c'est Caducé. Salut Caducé.
Salut Pionfesseur.
Alors toi, tu connais Nanar Ludique, tu as déjà écouté, j'imagine.
Ah, je suis une auditrice assidue de Nanar Ludique.
Parfait. Et donc, forcément, tu n'as jamais participé puisque tu es arrivé cette année, donc c'est normal.
Exactement.
T'es la dernière des nouvelles à participer, parce qu'il y a déjà Bartouf et Kurtz, ils ont participé, eux.
Ah, Bartouf, je me souvenais pas. Kurtz, oui, pour la dernière, mais Bartouf, je m'en rappelais pas.
Dis donc, comme auditrice assidue...
Ouais, non, ça m'a pas marqué, tu vois. Il faudra que je réécoute ce passage de Bartouf.
Et ben, tout le monde vient de reconnaître la deuxième tenancière qui est là. Je dis ça parce que toi t'es là à chaque fois. C'est Mad, bien sûr.
Oui.
Salut Mad.
Salut Pionf. Oui, qui sait pas se retenir, qui sait pas attendre son tour, qui la ramène avant même d'être présentée.
Oh, je dis que t'es là à chaque fois, mais ça fait un moment que t'étais pas là.
Oui, et j'ai un peu réclamé d'ailleurs. Je dis, ça fait longtemps, Pionfesseur. On me voit plus sur les nanars ludiques.
Ouais, mais j'avais tout prévu. J'avais prévu que tu sois là à cette session là de toute façon.
Ok, donc j'ai
donc
un peu moins mauvaise conscience alors.
C'est ça. Mais déjà, on va rappeler peut-être le principe de l'émission, parce que même si vous le connaissez, peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est leur première. Donc, Nanar Ludique, c'est une émission dans laquelle on va s'intéresser à un nanar. Alors un nanar, je reprends ce terme du cinéma, donc c'est au cinéma normalement un film qui est tellement mauvais qu'il en devient bon ou rigolo ou intéressant à regarder. Et Nanar Ludique, bah c'est pareil pour les jeux de société. Donc ça va être un jeu de société qui va être soit très bizarre, soit très nul, soit souvent les deux. Et à tel point que bah voilà, c'est rigolo d'en parler, de le découvrir et de voir qu'est-ce qu'il a à nous proposer.
Donc rien à voir avec un individu qui s'appellerait Bernard.
Non. Et qui serait ludique. Ouais,
non mais t'as dit qu'on devait faire des blagues, alors j'y vais. Hein. Alors si c'est pas toujours de bon ton, je vous prie de m'en excuser. Mais là ce soir, je lâche les chevaux.
Du coup, la petite astuce de l'émission, surtout, c'est que ni toi Caducé, ni toi Mad, vous ne connaissez le jeu à l'avance. C'est moi qui vais vous le faire découvrir en vous racontant de quoi il parle. Toutes vos réactions sont authentiques.
C'est ça.
Réalisées par des professionnels.
Et donc, comme on disait entre nous avant que ça démarre, il y aura peut-être quelques rires préenregistrés. Mais on ne sait pas. Comme dans Friends, c'était pas dans Friends qu'il y avait des...
Ouais, bah comme dans les sitcoms en général.
Peut-être quelques applaudissements aussi.
Oui, c'est ça. Alors, avant de commencer pour de vrai l'émission, on va quand même faire des petits remerciements. Alors, on va déjà faire des remerciements aux donateurs et donatrices. Donc, pour cette émission, on remercie Deckmoon, Wallring, Alus, El Piero 50, Fendoel, Jimmy Celtics 95, Robinocrite, Sam Chakit, Yann Le Proto, Strugarek, Nico Como, Collignan et Laurent 36. Merci à vous, j'espère que vous êtes des auditeurs de Nanar Ludique, sinon vous ne vous êtes pas entendus, ce serait dommage. Et on va remercier également notre partenaire La Caverne du Gobelin. La Caverne du Gobelin, ce sont 6 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt, mais c'est surtout une boutique de vente de jeux de société en ligne sur cavernedugobelin.com. Et toujours avant de commencer, on va faire un retour sur les commentaires de l'émission précédente. Alors attention, quiz surprise pour Caducé qui est une auditrice fidèle. Est-ce que tu te souviens c'était quoi le jeu de l'émission précédente?
Je m'en souviens très bien, parce qu'il m'avait beaucoup marqué ce jeu, et tellement au point que j'étais allée voir sur Tabletop Simulator les différentes cartes du jeu, ça m'avait beaucoup intriguée. C'était un The Worst Case Scenario Survival Game.
C'est ça.
Ouais.
Un titre pas facile à retenir,
non.
Hein, pourtant.
Non. Donc, et avec une proposition originale et assez surprenante. J'en avais déduit que j'étais pas forcément d'accord avec tout ce qu'il y avait de marqué dans les propositions de ces survivalistes.
Oui.
Voilà.
Mais c'est ça qui est terrible, c'est que tu nous as mis un petit commentaire justement sur Discord pour nous dire que tu étais allé voir sur Tabletop, mais qu'il y avait des cartes avec lesquelles tu étais quand même d'accord. Mais alors c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, moi je t'ai répondu, je t'ai dit, mais en fait, s'il y a des cartes qui sont justes, c'est d'autant pire, parce que ça veut dire que tu peux accorder du crédit au jeu, et donc même quand c'est faux, tu vas croire que... Tu vois que le jeu a raison.
Exactement.
Comment
réussir à départager le vrai du faux ? Surtout que des fois, il y a des réponses qu'on peut en fait mitiger. C'était assez flagrant. En tout cas, sur les questions qui me concernaient d'un point de vue médical, sur lesquelles je pouvais éventuellement me prononcer, même si, dans un milieu survivaliste, il est probable qu'on n'ait pas les mêmes options que dans un milieu balisé, on va dire hospitalier.
Bah oui.
Mais c'est vrai que ça laissait... planer le doute sur les conseils qu'on pouvait retenir sur d'autres sujets comme comment réagir face à un ours ou d'autres choses assez étonnantes que proposait le jeu. Ouais.
Et en tout cas, c'est un peu le genre de retour aussi qu'on a eu dans les commentaires. On a eu 8 commentaires, c'est plutôt une bonne moyenne pour les nanars ludiques, donc moi ça me fait très plaisir.
Ouais, surtout en ce moment, parce que là on assiste à une chute du nombre de commentaires, alors, sauf sur le dossier sur l'art, mais sinon... Ouais,
ils ont tout donné sur le dossier sur l'art et là c'est en berne.
Oui, c'est ça. Ils viennent débattre avec moi de l'art et tout ça et après ils en ont marre alors ils viennent plus commenter.
Non, les émissions des autres, ah bah merci.
Alors en tout cas, les commentaires du coup de ce nanar, donc je disais, déjà il y a eu des commentaires effectivement qui étaient un peu justement dans les débats là dont on parle de savoir si certaines propositions étaient justement vraies ou non. Est-ce qu'en fait, on considère qu'on est dans un milieu survivaliste, donc du coup, c'est normal que l'eau de mer se soit mieux sur la blessure et tout ça. Enfin, que des trucs comme ça. Bon, vous irez lire tout ça. Il y a notamment Berdou et Prosper qui ont essayé de justifier quelques choix comme ça. Après, ça fait plaisir parce qu'il y a aussi des commentaires tout simplement de gens qui ont kiffé l'émission. Par exemple, il y a Zoidberg ou il y a le bon Creusois, excellent pseudo. Qui ont aimé l'émission. Je constate aussi qu'il y a beaucoup de personnes chez qui mon outro a fait un petit effet. Vous savez, à la fin de chaque nanar ludique, j'aime bien mettre une petite outro. Ouais.
Effectivement, je fais partie de ces personnes aussi. Hein. C'était Raon, c'était incroyable.
Ouais.
Et son troupeau de bananes.
Oui, non, mais les gens, si vous n'êtes pas allé voir la vidéo, il faut y aller, c'est obligé. C'est trop bien.
Mais après chaque nanar ludique... C'est là qu'on voit, tu vois, l'amour du nanar, c'est un spectre, tu vois, ça s'étend ailleurs que dans le jeu de société, tu vois, c'est aussi l'amour du cringe et tout ça, et donc j'essaye de caler mes petites références que j'ai à côté, pour ceux qui les ont. Sinon, j'ai eu d'autres commentaires que j'ai trouvé très rigolos, je pense que c'était une des sessions commentaires les plus rigolotes qu'on a jamais eues sur Nanar Ludique. On a par exemple une personne qui s'appelle Gisèle, que j'imagine être sous pseudo, et je pense savoir qui c'est, qui m'a dit « Suivant les conseils prodigués dans votre émission, mon fils Bernard a voulu désinfecter notre planche à découper dans le micro-ondes de notre cuisine pendant 10 minutes. Suite à l'incendie de notre maison, nous assignons en justice le responsable de votre podcast, Monsieur Fesseur. Cependant, notre avocat prendra rapidement contact avec vous pour vous proposer 3 solutions à l'amiable. Petit A, donc là c'était un peu comme dans Worst Case Scenario, petit A, jouer à la version solo de Monopoly Pont-à-Mousson. Petit B, brûler une boîte de Race for the Galaxy en criant « Vive Terraforming Mars !» Je vais évidemment pas choisir ce choix-là. Et petit C, inventer le jeu Barrage Dice. Franchement, si Monopoly Pont-à-Mousson existe, je suis chaud de jouer à la version solo. Très curieux. Ce serait ça mon choix.
C'est l'option que j'aurais choisie aussi.
Je remarque que le monsieur s'appelle Bernard. Hein. Tout est lié.
Oui.
C'est vrai. Après, on a eu un commentaire sinon de JD qui a trouvé une étude américaine sur le fait de mettre des planches en bois au micro-ondes. Il a mis un petit lien. Il a dit qu'il avait envie de trouver les origines de l'étude et tout ça et de faire ça en fait pour d'autres réponses nanardesques. Mais il a dit j'ai une partie de worst case scénario qui m'attend, qui était un autre jeu avec des saucisses, rien à voir, dont j'avais parlé dans l'émission.
Alors bon courage parce qu'il y a 600 cartes. Hein.
Oui. Le travail d'une vie.
Ah oui, bah oui. Franchement, il y a des gens, ils pourraient faire ça, un wiki de worst case scenario, ça serait pas mal.
Ça permettrait peut-être de justifier les réponses. À minima, ce serait peut-être bénéfique. Mmh.
En fait, on fait le travail des auteurs.
Ouais, exactement.
Je te sens qu'Adyssée est un peu remontée.
Après, on a Kinarbre qui dit « À mon avis, le nom de University Games, donc c'était l'éditeur, vient du fait que les fondateurs se sont rencontrés en séchant leurs cours de fac, ce qui expliquerait la solide assise scientifique des questions et des réponses proposées. Et après, il nous recommande le bouquin « Comment chier dans les bois ?» hein, c'est écrit pour une approche environnementale d'un art perdu. Un bouquin de Kathleen Meyer. Il l'a dans sa bibliothèque apparemment, mais il ne l'a jamais lu. Et il dit que dans la même collection, il y avait aussi un bouquin qui s'appelait « Le sexe dans la nature », qui aurait pu du coup servir de bonne base pour la version 18+, là, de Worst Case Scenario. Ça aurait été pas mal.
Et oui.
Excellent. Et enfin, dernier commentaire, il y a Yann Le Proto, qui, comme son nom l'indique, aime bien proposer des variantes et des protos et tout ça. Et il disait « On pourrait faire une variante avec un MJ » qui prépare les cartes à l'avance et qui du coup les utiliserait pour faire une sorte de scénario, une sorte d'histoire comme ça qui se suivrait logiquement. Donc tu vois, ah, tu te fais attaquer par un ours, puis après t'arrives à en échapper, mais ah non, machin vient de se faire une fracture en courant, tu vois, des trucs comme ça.
Voilà, des heures d'amusement.
Ah bah là, les rôlistes s'abstenir. Ok, bah écoutez, on a fini sur les retours des commentaires de l'émission précédente et je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet.
C'est parti.
Donc, vous connaissez la tradition normalement de cette émission. Donc, vu que vous connaissez pas le jeu, moi j'aime bien dire juste le titre du jeu et vous allez essayer de deviner de quoi il va s'agir, que ce soit en termes mécaniques, peut-être dynamique de jeu, thématique, dans quel genre il s'inscrit, etc. etc. Et j'espère que vous le connaissez pas, bien sûr, ce jeu. Alors, est-ce que vous connaissez le jeu qui s'appelle Top 10?
Oui.
Oui, et même le Top 10 18, puisqu'on parlait des variantes.
Oui. Oui. Et même le Top 10 Aventure qui va sortir.
Oui, il y a un Top 10 Entreprise aussi, je crois. Oui,
c'est vrai.
Alors évidemment, je ne parle pas de ce Top 10-là.
Oh.
Vous doutez bien. Vous doutez bien qu'on ne parle pas de Top 10 de chez Cocktail Game. Alors, je parle d'un autre Top 10 qui a une petite particularité, c'est que c'est en fait un jeu qui a eu deux éditions. Vous savez, comme les jeux qui ont des rééditions, genre, je sais pas, Augustus, qui ensuite s'appelle Via Magica, quoi, par exemple. Donc, on va plutôt prendre l'autre titre, celui de l'autre édition. Ça vous aidera peut-être un petit peu plus à réfléchir. Donc, l'autre titre, c'est The Ten Commandments. Ce qui, en français, veut dire les 10 commandements, tout simplement. Alors, Caducée, vu que tu es nouvelle dans l'émission, on va te laisser l'honneur de nous dire en premier qu'est-ce que ça t'évoque, qu'est-ce que tu penses que ça va être un jeu qui s'appelle les 10 commandements.
Les 10 commandements. Alors, est-ce que ça pourrait être un jeu de mime?
Ouais.
Avec, okay. Avec une succession de pseudo-gages qui pourraient s'enchaîner pour se cumuler jusqu'à 10. Et,
ok, ouais.
Voilà, une histoire de mime qui se cumule.
Un genre de élixir ou de foufoufou, les
ouais,
jeux comme ça, ou des
ça,
jeux à gages.
Ouais, des choses comme ça. Ça peut être un mix avec un foufoufou, Yogi, tous ces jeux où
ah
tu
oui,
dois
Yogi aussi, ouais.
Faire dans la surenchère de choses qui deviennent de plus en plus compliquées à ajouter les unes aux autres.
Ok, ouais, bonne idée. Je te dis pas si c'est juste encore, puisque on va écouter un petit peu Mad pour voir ce qu'elle, elle en pense.
Voilà, mon imagination fertile est partie dans tous les sens. J'essaie de la canaliser. Bah forcément, ça fait penser à quelque chose de religieux. Alors, voilà, Moïse, et puis des épreuves peut-être qui vont arriver. Mais tu avais déjà fait un jeu où il y avait comme ça le parcours d'un pèlerin.
Et oui.
Donc, je pense pas que
Blasphémie.
Blasphémie. Donc, je pense pas que tu sois allé de nouveau là-dedans. Du coup, ça me fait penser à un jeu asymétrique, peut-être, parce que dans les 10 commandements, il y a quand même l'idée de quelqu'un qui ordonne et de tous les autres qui exécutent. Donc peut-être que sur l'histoire de la mécanique, on aurait un jeu comme ça où un des joueurs, une des joueuses, a un rôle plus important que les autres. Si tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Voilà, qui incarnerait une forme de divinité.
Si on combine avec ce que Caducée l'a dit, ça fait un peu un genre de comme le jeu Jacadi, quoi.
Oh, oui, effectivement. Mmh. Et puis un truc
comme ça.
Et puis un truc peut-être. Tu parlais de défi Caducée. Tu sais, genre action ou vérité.
Oui.
Ou j'ai l'impression que ça va être un peu malaisant, en fait. tu vois, que les gens vont devoir faire des choses.
Si tu réussis les 10 commandements, tu as une sorte, tu es déifié et tu changes de rôle.
Ouais, ou alors on t'oblige à faire des trucs, tu vois, parce que commander, c'est quand même fort comme mot. Hein. Donc ouais. On t'oblige à faire des choses, voilà quoi, que t'as pas forcément envie de faire.
Ok, ok. Oui, c'est plus dans le genre ce qu'on appelle les parlor games, donc les, oui, effectivement, comme Action et Vérité et tout ça. Ok, ok.
On a bon ?
Non, vous y êtes pas du tout.
La sentence.
Non, non, c'est pas du tout ça, vous allez voir. Mais je suis très content parce que du coup, vous n'avez pas débusqué ce que ça allait être.
Et est-ce qu'on avait les moyens de débusquer ? Est-ce qu'avec juste le titre, il y avait moyen de débusquer des choses ?
J'en sais rien, ouais, franchement. Okay. Je pense que dans Nanar Ludique, c'est à peu près impossible avec juste le titre. En fait, ouais. Alors, le truc, c'est pour ça que je fais ça.
Bah, c'est pour ça, ça y est. Bah, en fait, on est déjà dans cette position. Toi, tu as le savoir, la connaissance. Et puis, nous, on est pauvres pêcheuses. Dans l'ignorance.
Une bonne remarque que tu as fait, Matt, c'est qu'effectivement, on avait déjà fait en toute première émission le jeu Blasphémie à l'époque, qui était un jeu où effectivement c'était plutôt justement on refait la vie de Jésus, etc. Sauf qu'on incarnait différents Jésus. Et finalement, c'était un jeu très théologique. En fait, aux États-Unis, il y a énormément de jeux comme ça sur la religion catholique et tout, parce que, parce que c'est un pays très catho, tout simplement. Et The Ten Commandments, lui, il va être plus à l'inverse. En fait, il y a une autre sous-branche de jeux où il y a beaucoup de nanars dedans, où ça va être les jeux qui sont à l'inverse pour critiquer un peu la religion, indirectement via la thématique, vous voyez.
Mm. Okay.
Donc c'est marrant, parce qu'on pourrait appeler ça des jeux blasphématoires, mais finalement, Blasphémie, c'était un jeu pas du tout blasphématoire, alors que celui-ci, si, vous voyez.
D'accord, d'accord.
Et donc la thématique, en fait, de ce jeu-là, dans l'idée, c'est que on joue des gens qui vont mettre à jour les 10 commandements. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on est, mais on serait des... Ça se passe quand même dans l'Antiquité, mais tu vois, on va jouer des différents rôles de personnages, quoi, qui, je sais pas, ça peut être des politiques, ça peut être des marchands, ça peut être... Voilà, on y reviendra, mais il y a différents rôles. Et l'idée, c'est qu'en fait, on va mettre à jour la religion pour qu'elle suive nos intérêts. Vous voyez, le message du jeu, c'est de dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des mises à jour, des révisions, des textes, etc., c'était pour suivre des intérêts, entre guillemets, politiques. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ok.
Thématique okay. Intéressante, hein, moi.
Tout à fait, oui. Là, tu nous as hypé, là.
Et en termes de genre, on va être du coup sur une espèce de jeu de négociation, à peu près. Vous voyez ?
Okay.
Ou de jeu de vote, on va y revenir, on va être sur ce genre-là, quoi. Mm. Okay. Puisqu'on va essayer de débattre avec les autres pour faire en sorte que ce soit nos commandements à nous qui deviennent les nouveaux commandements, les nouveaux 10 commandements, quoi. Voilà pour le pitch rapide du jeu. Alors, je vais vous faire maintenant une petite fiche signalétique pour qu'on voit un petit peu de quoi on parle. Donc c'est un jeu qui a 3 personnes qui ont créé le jeu, donc 2 auteurs et une autrice. Il y a Mike Selinker, Dan Tibbles, et alors la meuf, je ne sais pas comment ça se prononce, Tywin Woodruff, je pense, un truc comme ça. C'est illustré par je ne sais pas qui, parce que ce n'est pas crédité, mais j'ai des gros soupçons sur le fait que ça serait Dan Tibbles, donc un des 3 auteurs qui serait l'illustrateur aussi, je pense. C'est édité par Bucephalus Games. Et alors... Autant vous le dire, ouais, c'est un peu une auto-édition, encore une fois. On a l'habitude sur les nanars, mais c'est... On en reparlera de tout ça. Et c'est sorti en 2009. Donc c'est pas si vieux que ça, mais ça commence à l'être un peu, on va dire. Alors, bah écoutez, je vais vous expliquer comment ça se joue. Ah oui, alors je vous ai dit, il y avait 2 jeux. Parce qu'il y a aussi le fameux Top 10, là.
Mais oui, c'était la même thématique ?
Bah non, du coup, en fait, le Top 10, justement, c'est un autre jeu qui est exactement le même, mais ils ont juste changé la thématique, et du coup ce qu'il y a sur les cartes, le contenu du jeu et tout ça. Sauf que dans Top 10, en fait, le sous-titre, c'est Top 10 The Bill of Rights, qu'on pourrait traduire par la Constitution ou un truc comme ça. Enfin, c'est l'ensemble des règles qu'on fait, mais pour une loi cette fois, vous voyez.
D'accord.
Comme, comment ils appellent ça aux États-Unis, la déclaration d'indépendance, je crois, où ils ont 10 articles comme ça.
D'accord. Okay. Ouais, donc dans un environnement plus moderne.
Voilà, mais l'idée est la même, c'est qu'en fait, on va jouer aussi des politiques et des gens comme ça qui vont décider des lois d'un pays cette fois. Vous voyez.
Ok.
Okay. On n'est plus sur des lois divines, malheureusement. Mm. mais bon, vous voyez, l'idée est la même. Mais on va rester sur The Ten Commandments, parce que c'est celui-là qui m'intéresse. Donc, comment ça va se jouer? Donc, l'idée, c'est que on va avoir... c'est un jeu à rôle secret. Ok, donc vous allez commencer, vous allez avoir... c'est un objectif secret aussi, en fait, qui va vous déterminer qu'est-ce que vous essayez de faire dans ce jeu. En fait, il y a différents symboles qui vont être sur les cartes de commandement qu'on va voter. Et votre objectif, en fait, c'est que vos symboles à vous se retrouvent dans les 10 commandements à la fin. Donc les symboles, en fait, si vous voulez, sur votre carte d'objectif, il faut que vous imaginiez, il y a tous les symboles avec des valeurs qui vont genre de plus 3 points à moins 3 points pour chacun des symboles, pour dire chaque symbole combien il vous rapporte. Vous voyez ce que je veux dire ?
Est-ce que dans le dilemme du roi, il n'y a pas un peu... Enfin, je n'y ai pas joué, mais je sais que vous y avez joué. Il
ouais, y a pas un peu ça
aussi.
Ça fait penser un petit peu à ça, là, avec ces symboles qui sont plus ou moins valorisés en fonction de tes choix.
Bah ouais, ça fait carrément penser au dilemme du roi.
Mais ça fait penser aussi à Vive le roi.
Vive le roi, j'y ai pas joué. Alors,
parce que
Vive
dans
le roi,
Vive
que
le roi, tu reçois en début de partie une carte avec les personnages que tu dois pousser sur le trône. Et je crois qu'en fonction justement de ces personnages-là, tu as plus ou moins de points. Donc là, ce ne sont pas des symboles que tu vas essayer d'avoir à la fin de la partie, mais c'est les initiales des personnages que tu essayes de faire bouger pour avoir plus ou moins de points en fonction de où ils se situent dans la hiérarchie par rapport au trône. Tu vois, ça...
Ok, ouais. Oui, bah ouais, c'est le même genre de truc.
Un petit peu cette idée-là.
Sauf que là, du coup, c'est des symboles, donc ils peuvent être présents plusieurs fois. Tu vois, c'est...
Oui.
Mais... De toute façon, c'est un truc assez classique des jeux à objectifs secrets, tu vois, c'est d'avoir des trucs que tu veux et d'autres trucs à l'inverse que tu veux pas. Donc en fait, on va avoir donc ces cartes-là qui représentent nos objectifs secrets. Donc évidemment, on en a une en début de partie, chaque personne en a une. Et on va avoir également des cartes de commandement. Alors apparemment, les cartes de commandement, elles sont vraiment très grandes. Moi, j'ai vu une personne qui disait que apparemment, ce seraient des cartes qui font la taille de 3 x 5 cartes. Alors j'ai du mal à le croire quand même. Moi je pense que ça doit être plutôt un format tarot ou un truc comme ça. Mais vous voyez, c'est comme si on mettait 3 cartes les unes à côté des autres, puis 5 cartes en hauteur et ça ferait la carte. Alors je pense que j'ai juste mal compris ce qu'il a voulu dire.
Les tables de commandement de Moïse, c'était carrément des bouts de pierre.
C'est ça.
Oui, c'est
je
vrai.
Trouve qu'on s'en sort mieux.
Alors ouais, d'ailleurs, je peux le dire tout de suite, hein, le jeu je ne l'ai pas. C'est très très obscur et donc très très difficile de trouver des vidéos de gens qui jouent à ça. Donc je me base un peu sur ce que j'ai réussi à grappiller ici ou là. Hein. Donc peut-être que je suis pas juste à 100%. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a des cartes beaucoup plus grosses qui représentent les commandements. Et elles sont divisées en 4 paquets. Parce qu'en fait, il faut qu'en début de partie, vous piochiez une carte de chacun des paquets. Donc vous avez 4 cartes en main, une de chaque paquet, qui sont des cartes de commandement. Et alors ces paquets, là, premier petit jeu pour vous, il faut du coup qu'on les distingue, puisque au début de partie, voilà, il faut qu'on puisse séparer ces cartes par paquet. Mmh. À votre avis, comment on fait pour distinguer ces 4 paquets ?
Du point de vue ergonomique alors ?
Ouais. Oui, oui, d'un point de vue purement ergonomique.
Ouais, bah, la plupart du temps, c'est des couleurs
ou on
rajoute des symboles.
Des dos différents.
Ça fait des symboles sur des symboles aussi.
Mais ça serait trop simple, donc malheureusement ce n'est pas ça. Les dos sont tous identiques.
Okay.
Alors, qu'est-ce que c'est à votre avis ?
Est-ce que c'est ça met en jeu un des sens qu'on n'a pas l'habitude de mettre en jeu, genre autre chose que la vue ?
Ouais, je pense.
Est-ce
que
c'est au toucher ?
C'est pas au toucher, mais pas loin.
Bon, c'est pas au goût, c'est pas à l'odeur.
Non, ni à l'odeur.
Non, c'est pas au goût ni à l'odeur.
Au poids.
Ça dépend si tu considères qu'il y a... Ah !
Parce qu'on était sur des tablettes en pierre, donc est-ce que c'est au poids ?
Alors. C'est à peu près ça.
Non.
C'est à peu près ça, c'est parce qu'en fait, c'est par rapport à leur épaisseur.
Ah ouais ?
Okay. Donc il faut trier les cartes par épaisseur.
Ah, ça doit être vachement simple à faire, ouais.
Pour être sûr que ce soit les pièges différentes, vous voyez.
Ok.
Donc c'est plus des tuiles que des cartes, finalement.
Bah, c'est des cartes, mais il y a des cartes très fines et il y en a des moins fines, quoi. Enfin,
ok.
Apparemment, c'est pas assez épais pour que ça soit une tuile, mais voilà, bon, c'est...
Après, ils auraient pu faire en matière différente, tu vois, celle en carton, celle en tissu, celle en pierre.
Ça aurait été excellent. Ça aurait été excellent. Voilà, première petite particularité rigolote. Donc, comment ça va se passer maintenant, le tour de jeu ? Alors, à chaque tour, tout le monde pioche une carte du paquet de son choix. Alors, bon, sachant que les paquets, a priori, on sait même pas trop ce qu'il y a dedans. La répartition se trouve quelque part en plein milieu des règles, donc je sais pas si on a envie d'en avoir quelque chose à faire. Ensuite, on va chacune jouer une carte simultanément face cachée devant nous, et on va les révéler ensuite tous en même temps. Donc on aura, c'est des cartes de commandement, hein, je vous rappelle. Et on va, là il y a une phase de négociation, donc là c'est un peu comme dans les loups-garous, vous savez, c'est la phase où on fait rien d'autre que discuter, on tchatche avec les gens. Et une fois qu'on a fini de tchatcher, on va pouvoir placer des jetons, parce que pour le coup, on a vraiment des jetons, chacun aussi en début de partie. On a des jetons de 1 à 7. Et l'idée, c'est qu'on va on va devoir placer un jeton sur chaque carte, y compris la sienne, face cachée, ces jetons. Donc ça, c'est simultané, on place tous des jetons face cachée. Alors, je ne sais pas si on joue avec tous les jetons quand on joue à moins de joueurs, parce que quand on joue à 7, du coup, on place les 7 jetons. Mais si on joue à 4, je ne sais pas si on a quand même des jetons de 1 à 7, ou si on a que les jetons de 1 à 4. Vous allez voir que ça serait peut-être plus logique qu'on ait que les jetons de 1 à 4.
Ouais.
Et une fois qu'on a placé un jeton sur chaque carte, on va révéler les jetons de tout le monde. Et en fait, c'est comme si c'était des votes avec du poids. Ah, encore comme le dilemme du roi.
Et alors, quand tu parles de poids, ça veut dire que les jetons ont des épaisseurs différentes aussi?
Non, pas du tout.
Parce que là, en termes de discrétion, c'est pas fou, quoi. Parce que si le jeton 7, il fait 7 fois l'épaisseur du jeton 1.
C'est un poids en vote, évidemment. Et donc, c'est en gros le commandement qui a reçu le plus grand nombre de votes. Donc, si on fait la somme des chiffres qui sont dessus, qui va passer, quoi. Qui va être validé, quoi. Les 3 autres, enfin, les 6 autres, même si on joue à 7, seront juste défaussés, et puis tant pis.
Et on fait ça 10 fois, alors.
Ça 10 tours, ouais.
Alors, presque. Presque. Mais du coup, si c'est validé, qu'est-ce qui se passe ? Ben, ce commandement va se rajouter sur un plateau central, parce qu'il y a un énorme plateau central où il y a juste des encoches sur le côté. Enfin, c'est pas des encoches, c'est des petits dessins pour qu'on puisse y mettre les cartes, les commandements tout autour, comme ça. Donc, on va mettre un des commandements à... le premier au premier commandement, etc., jusqu'à ce qu'il y en ait 10, effectivement. Et on va gagner des points en fonction de ça. Alors, comment on gagne des points ? Ben, en fait, pour chaque vote que vous avez mis dans le commandement qui a gagné, vous gagnez un point. Donc, si moi, j'ai mis mon 7 sur le vote qui gagne, ben, je gagne 7 points.
Ok.
Ok ?
Ouais.
Bon, moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres, mais peut-être t'en parleras après. Qu'est-ce que je fais ? Je te la pose maintenant ou j'attends ?
Vas-y, pose la question.
Parce que sur ces cartes commandement, il y a des symboles, si j'ai bien compris.
Il va y avoir des symboles, ouais.
Ouais, mais est-ce qu'il y a des phrases aussi, les commandements rédigés ? Dis-moi que oui. Dis-moi que oui, oui, d'accord.
Bien sûr que oui, et bien sûr qu'on va les lire plus tard.
Ok, très bien.
Dans l'émission.
Non, je voulais être sûr. Je le sentais, mais je voulais déjà le savoir, ok.
Et ce qu'il y a aussi, c'est un nombre de points sur la carte commandement pour la personne qui l'a joué. Donc, je résume, on gagne des points pour les votes qu'on a fait, toutes les personnes qui ont voté pour ce commandement gagnent des points, et la personne qui a fait le commandement, qui l'a mis devant elle, gagne le nombre de points qui a écrit sur la carte. En général, ça va de 2 à 6 points, les valeurs des commandements.
Comment ils ont gradué les commandements ?
En termes de points ?
Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un commandement vale 2 plutôt que 6 et inversement ?
Alors, de ce que j'ai compris, c'est même pas les différents paquets, tu vois.
Ah.
Donc, je sais pas trop comment c'est fait, mais c'est un peu, franchement, je pense que c'est un peu aléatoire, honnêtement.
Ouais, c'est comme les paquets, il n'y a pas de thématique entre les 4 paquets. C'est random.
Non, alors j'imagine qu'il n'y a peut-être pas la même répartition des symboles, c'est peut-être ça. Donc du coup, il y a quand même une forme de thématique, mais bon, honnêtement, je ne sais pas. Vu que je n'ai pas pu faire des stats.
Et les symboles ont un sens.
Les symboles, oui, les symboles ont un sens. Pareil, ça, on en reparle après, bien sûr. Pour le moment, je vous explique juste le déroulé du jeu, et après, on regarde le contenu. On va bien rigoler avec le contenu après. Alors, donc la personne qui a son commandement gagne des points. Et aussi, les commandements ont tous une capacité spéciale. Donc, quand un commandement est voté, il va se passer quelque chose dans le jeu. Mmh. Ok, ça aussi, on ira regarder les effets tout à l'heure.
Ah, ça y est, c'est là le moment malaisant où les gens font des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire.
Alors non, c'est pas des trucs à la élixir, pour le coup.
Ah, ok.
Heureusement. Et une fois que c'est fait, on repart sur un nouveau tour. Donc, on récupère nos pions et puis c'est reparti. Alors, il y a un cas, vous n'êtes pas posé la question, mais qu'est-ce qui se passe en cas d'égalité, du coup ?
Bah si,
parce que vu que c'est des votes, si la somme des votes fait la même chose pour deux commandements, et bah ce qui se passe, c'est que juste, il n'y en a aucun qui est voté, et on refait un tour, quoi. Il se passe rien, quoi, ce tour-ci. On va juste défausser toutes les cartes. C'est pour ça, quand vous me dites que ça va durer 10 tours...
Ça peut durer beaucoup plus.
Ça peut durer beaucoup plus, s'il y a des égalités.
Ça peut être très long.
Après, on peut faire une variante, les deux premiers s'éliminent et on prend le deuxième.
Comme on peut faire une variante, la variante stupide vautour.
Ouais, comme ça on fait 10 tours.
Tout à fait. Et donc voilà, une fois qu'on a fait ça, une fois que les 10 commandements ont été votés, comme dit, sur chaque carte de commandement, il y a deux symboles. Et en fait, ces symboles, vu que c'est des objectifs secrets, ils sont scorés qu'en toute fin de partie, puisqu'évidemment on ne doit pas les révéler aux autres. Et donc à ce moment-là, une fois que les 10 commandements ont été votés, on révèle notre rôle et on score tous les points qui nous reste à scorer des objectifs secrets par rapport aux symboles qui se trouvent sur les 10 cartes de commandement. Okay.
Et les rôles ne sont pas personnifiés, tu disais. Je n'interprète pas quelqu'un en particulier. C'est juste des cartes.
Ils sont personnifiés.
Cool.
Enfin, ils ont un nom, quoi, tu vois. Ça te donne pas des capacités spéciales, mais c'est juste qu'ils ont un nom, quoi. Alors, avant qu'on regarde le contenu plus en détail, je vais vous parler juste déjà globalement du matos et notamment du plateau. Donc je vous ai dit, le plateau, il y a des petites encoches sur les côtés avec des emplacements pour mettre les 10 commandements. Il y a aussi une citation de l'Exode, donc c'est un bout de la Bible, hein, il me semble bien. Bon, je ne vais pas m'amuser à vous le traduire, mais voilà, en vieil anglais, comme ça. Et il y a ce qui prend la majorité du plateau, c'est une grande piste de score. Mais alors c'est marrant parce que d'habitude, vous savez, dans les jeux, maintenant, on a plus l'habitude d'avoir des scorings à la Kramer où on a une piste de score qui fait le tour du plateau. Alors que là, c'est les cartes qui vont se mettre autour du plateau. Et au centre du plateau, on a une piste de score qui prend toute la place. Et c'est une piste, vous savez, on appelle ça en boustrophédon. Donc vous savez, où on va un coup à gauche, puis un coup à droite, puis un coup à gauche, puis un coup à droite, vous voyez ?
Ok, comment tu l'appelles ?
B-O-U-S-T-R-O-P-H-O-D-O-N, un truc comme ça. Je sais ça grâce à Acariatre.
Oh là là, quel talent,
ce monsieur. Petite dédicace. Ensuite, pour vous dire, donc, les cartes objectifs. Donc, en fait, c'est assez marrant parce que vous incarnez, comment je pourrais appeler ça, une sorte de vertu, on va dire. Et au sein de chaque vertu, il y a 6 personnages qui ont des objectifs différents. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en début de partie, vous choisissez quelle vertu vous voulez être. Il y a 6 cartes, comme ça, qui représentent cette vertu. Vous les mélangez et vous en piochez qu'une. Et ce sera ça, votre objectif secret. Et alors, qu'est-ce que ça change ? En fait, c'est juste que votre vertu, c'est un des symboles qui se trouve sur les cartes. Donc, tout le monde sait que parmi ces 6 cartes, ce symbole-là est toujours la valeur qui vous fait plus 3 points, qui est le truc le plus élevé.
D'accord.
Je sais pas si c'est clair ce que je raconte.
Ouais, oui, c'est clair. Et ça, c'est la seule information ouverte, en fait, c'est celle qui se rapporte le maximum de points.
C'est ça, alors que tous les autres, c'est différent à chaque fois, quoi. Moi, je trouvais ça rigolo, là, maintenant, de vous faire une espèce de petit quiz où je vais vous donner des rôles et vous allez essayer de deviner à quelle vertu ils correspondent. Mais je vous dis pas c'est quoi les vertus qu'il y a dans le jeu, du coup. Faut essayer de deviner.
Ouais, ok. Mais la vertu, c'est par exemple la compassion.
Par exemple. Peut-être qu'il y a ça dans le jeu.
D'accord.
Après, c'est ce que le jeu considère comme une vertu. Hein.
Ah oui, et visiblement, t'es pas complètement d'accord.
C'est des vertus. Imaginez, dans un jeu, on est dans un jeu qui cherche à dénoncer un peu la religion, quoi. Hein. Mm. Ok.
Okay.
Donc, par exemple, un premier objectif que vous pourriez avoir, un personnage, donc, ce serait le sauvage. Quelle est sa vertu au sauvage?
Moi, je dirais la candeur.
La candeur, ouais.
Au enfin, sauvage.
Tu vois l'idée.
Sauvage.
C'est la parabole du sauvage innocent.
Du bon. Le mythe du bon sauvage.
Ouais, le bon sauvage, voilà.
Sachant que là, le sauvage, pour le coup, en anglais, c'est savage. Je pense qu'il y a quand même plutôt une idée de sauvage au sens la sauvagerie, tu vois, au sens violence.
Ouais, donc il y a un petit peu de c'est ce que j'allais dire, il y a un peu de violence, en fait, plutôt, ouais.
Ouais.
Ouais, mais la colère, par exemple, ça peut pas être considéré comme une vertu.
Non, ce n'est pas la colère. C'est plus bête que ça.
La rage non, si c'est pas la colère...
Non, ce n'est pas la rage.
En fait, il faut comprendre vertu comme caractéristique, en fait.
Comme truc que Dieu, il aime bien, c'est ça, surtout.
Ah, comme... ok, bah...
Qu'est-ce que Dieu, il aime?
Bah, Dieu, il dit, tu tueras pas
Dieu
ton prochain,
quand même.
Bon, je vais vous le donner, parce que celui-là, il est vraiment dur à trouver. Hein.
Mais ah ouais, donc tu commences par le plus difficile, quoi.
Oui, tout à fait. C'était la guerre.
Ah oui, c'est dans les vertus.
C'est une vertu. C'est
d'accord.
La guerre.
La guerre.
Bah, donc ça fait partie des symboles.
Bah, en même temps, les croisades, le ça n'est que ça. Hein.
Oui.
Bah oui. C'est ça l'idée, je pense, le message derrière. Et donc le sauvage, lui, il aime la guerre.
Mm-hmm.
Et donc le symbole, vous voyez, c'est juste c'est une épée, quoi. Alors, le deuxième personnage, c'est l'enfant angélique.
Ah bah, c'est lui, l'innocence.
Ou la pureté.
Ah bah, bravo, t'as trouvé. C'est la pureté. Bien joué, KDC. Oh,
et t'es connecté sur Tabletop, t'as déjà trouvé les cartes?
Non.
Ah oui.
Mais tu sais que je me suis fait bannir, moi, une fois, quand j'ai fait ça.
Oui. La pureté qui est représentée par une auréole qui brille, comme ça.
Ok.
Alors, ensuite, on a le charpentier. Quelle est sa vertu, au charpentier?
Ça va être quelque chose lié au travail ou à la force?
Ça pourrait, mais non. Tu vois, c'est très, très tordu. Celui-là, je pense que vous n'allez pas le trouver. Donc.
Alors, moi, j'ai une idée tordue, mais je ne sais pas si je suis tordue pareil. Parce que moi, tu vois, charpentier, forcément, je pense à Joseph. Et Joseph, c'est quand même le mec qui, dans toute l'histoire du Nouveau et de l'Ancien Testament, c'est celui quand même qui a été pris pour un benêt de première, quand même. Parce que... on lui a fait
donc,
quoi.
Ce serait quoi, la vertu?
Bah, c'est le simplet, le l'idiot bienheureux.
Non, c'est pas ça pour le coup.
Après, attends, j'ai une autre idée. Peut-être l'abnégation et le don de soi, tu vois. Parce qu'il sait qu'il s'est fait prendre pour un benêt et pourtant, il est resté présent.
Ah, mais c'est un bon raisonnement, mais c'est faux. Petit indice, c'est que l'icône, c'est un bâton. Je pense que c'est un bâton de berger, tu sais, c'est celui où il y a un arrondi au bout. Vous savez, en haut du bâton, ça forme un arrondi.
Ouais, et les évêques aussi, ils ont ça, c'est j'allais dire la crosse.
Ah ouais, mais c'est peut-être comme ça que ça s'appelle.
Je suis pas sûr, ouais. Mais
je
ok. Bah,
je suis très mauvais en théologie, sachez-le.
Bah, c'est peut-être
l'endurance,
c'est ça,
alors
C'est pas l'endurance.
Le berger qui guide son troupeau.
Ouais, il y a une idée.
C'est un bâton de berger, en fait. Et on aurait dû réviser, t'aurais pu nous donner des tips.
Oh là là.
Je vais vous donner la réponse de celui-là, parce qu'il est vraiment difficile. C'est le prosélytisme.
Ah ouais.
Ah bah oui, tu prends ton bâton pour aller effectivement donner la bonne parole, ouais.
C'est ça, c'est ça l'idée.
Et construire son église, c'est pour ça qu'il y a le charpentier, non?
Bah non, là pour le... Bah oui, je sais pas pourquoi charpentier, c'est peut-être pour construire l'église. Aucune idée, honnêtement.
C'est un peu étrange.
J'en ai aucune idée. Alors, le suivant, c'est le sanguinaire. Et ce n'est pas la guerre, hein, cette fois.
La mort.
C'est pas la mort.
La vengeance.
Non plus. Alors, j'ai traduit sanguinaire. L'idée, c'est surtout autour du sang. Plus que de tuer des gens, tu vois.
Bah, le sang, c'est quoi? C'est la vie, alors?
La sanctification.
Ça se rapproche.
Ouais, le sang versé, oui, c'est ça. C'est le sang versé pour nous.
Ah ouais, et donc ce serait...
J'ai des phrases
le sacrifice
chères. Le sacrifice, oui.
Oui, bien joué, Caducé.
Eh, à nous deux, on va y arriver, Manu.
Ah ouais, on a... ouais, ouais, c'est ça, c'est un travail d'équipe.
On va se faire tous les chants lexicaux.
C'est ouais, puis sacrifice. T'as comme ça des réminiscences là, qui te remontent.
C'est très loin.
Alors, hein, le logo, l'icône du sacrifice, c'est un arbre qui brûle. Alors ça, je crois que c'est un truc dans la Bible, ça.
Ouais, c'est le buisson ardent. C'est parce qu'il y en avait un qui devait sacrifier son fils.
Voilà,
il était
c'est ça.
Il était, bah ouais, puis il était OK. Et puis je crois que ça a pris feu à côté. Du coup...
Moi, je connais pas le lore, moi. Le suivant, c'est l'orfèvre.
Est-ce que c'est en lien avec l'avarice?
Ouais, mais il faudrait le dire en positif, quoi. Ah. C'est une vertu, je
trouve. Ah, l'économe, alors.
Ouais, c'est pas mal.
Ou la richesse?
C'est pas mal, écoute, je vais accepter cette réponse.
Tu valides?
C'est parce que c'est la traduction, faut voir comment on le traduit, tu vois, mais en anglais, ils disent la possession, c'est l'idée de posséder des trucs, tu vois. Le logo étant des pièces d'or. Très clair.
Ouais. C'est le capitalisme, quoi.
C'est le capitalisme. C'est les luthériens. Ensuite, donc il nous reste encore trois logos. Il y a la sage-femme.
Ah, là, c'est la vie.
Ce n'est pas la
non,
vie. Mais
c'est pas la vie.
Mais ça aurait pu. Quelque chose comme ça, ouais.
La création? Ouais, c'est pas une...
Non, c'est pas la vertu, création.
Mais non.
C'est aussi large et bête que la vie.
Ou la sagesse. Non, ça peut pas être la sagesse si on va reprendre les termes. Non.
Quand je dis bête, au sens simple, quoi, au sens basique. Quand on y... là, pour le coup, ça ressemble plus à une vertu que la guerre, hein, pour le coup. Je vous le dis.
Bah, la paix.
Il y a de l'idée, ça se rapproche, mais c'était pas ça. Sachant que l'icône, c'est une couronne de laurier.
Ah.
Et je n'ai aucune idée de pourquoi.
Donc ça ne va pas nous aider, alors?
Je ne sais pas. C'est peut-être un truc de l'or de la Bible que je ne connais pas.
L'honneur?
C'est pas l'honneur, non.
Avec le laurier, tu peux faire des plats en sauce. C'est peut-être la nourriture.
C'est pas con. C'est pas dans Astérix qu'ils font ça un moment avec la couronne de César.
Ou le savoir.
C'est pas le savoir. Allez, je vous donne la réponse.
Ou l'amour. C'était...
Oh, bah bien joué, juste avant que je le donne.
Oh là là, t'es forte.
C'était l'amour.
Oh.
C'est beau quand même.
C'est beau.
Ouais, donc en fait, il peut pas y avoir d'amour sans procréation.
Enfin,
si
pas,
c'est la sage-femme.
Peut-être,
bah,
peut-être que
la
sage-femme
oui.
n'est qu'amour.
En quoi la sage-femme, elle incarne l'amour, quoi. Donc en fait, l'amour, il est forcément utilitaire. Il doit avoir un but.
Bah oui, dans la religion.
Le réarmement démographique.
Bien sûr.
Exactement, pour pouvoir faire la guerre.
Moi, je suis pas étonné dans un jeu qui traite la religion au second degré, tu vois.
Ouais.
Alors ensuite, après, il y a le magistrat.
Bah, la loi.
Oui, la loi.
La règle. L'ordre.
Non, mais il y a l'idée.
Ah, la justice.
Enfin, non, c'est quand même autre chose.
Si la loi rendait la justice, ça se saurait. Mais...
C'est assez éloigné, pour le coup.
Ah oui, c'est assez éloigné de toutes ces idées-là qu'on vient de donner.
Ouais, ouais. J'ai du mal.
Tu as dit quoi, magistrat,
dire.
C'est ça?
Oui, c'est une vertu que Caducé a dit à un moment, pour un autre.
Ah.
Alors, qu'est-ce que t'as dit? T'as dit que tu prenais des notes. Qu'est-ce que t'as noté?
Ouais, mais là, en fait, si tu veux, sur mes notes, j'ai un bâton de marche de dessiner. J'ai une couronne de laurier.
Et un buisson ardent.
Je suis partie sur les dessins, là, en fait. Donc, ça va pas m'aider.
Dictionnaire religieux.
Oh là là.
Ah, je vous le donne parce qu'on va pas passer sans temps non plus. C'était la connaissance, pour le coup.
Ah, d'accord. Ok.
Représentée par deux tablettes, comme ça, comme c'était les deux tables de la loi, comme ça. Et le dernier icône qu'on peut trouver dans le jeu, le personnage que j'ai trouvé qui était associé, c'est l'échanson. Alors, vous savez ce que c'est qu'un échanson?
Non.
Oh là là, c'est le podcast, c'est l'émission qui va nous faire passer pour des imbéciles.
Ouais, c'est ça. Hein.
C'est pas très agréable.
On aurait dû avoir quelques termes à réviser, tu sais, avant.
Oui, c'est ça. La prochaine fois, tu nous envoies le lexique.
On n'aurait pas plus compris. Hein.
Moi, je le sais juste parce que j'ai déjà joué à Palace Geflüster et que dedans, il y a un échanson. Mais un échanson, c'est Alors, plus récemment, genre au Moyen-Âge, c'était les servants qui amenaient le vin ou les boissons comme ça, qui portaient les coupes aux nobles, quoi. Mais dans la religion, on est plus sur un truc où ça va être justement des divinités qui font ça à d'autres divinités. Vous voyez, c'est comme si, je sais pas, dans la mythologie grecque, il va y avoir, j'en sais rien, moi je connais pas assez bien, mais je pense par exemple à Hermès, c'est le messager des dieux. Bon, bah, vous imaginez, il y a un autre dieu, je sais pas comment il s'appellerait, mais qui serait genre les chansons des dieux et qui leur apporte à boire, qui leur apporte l'ambroisie.
Alors la servitude.
Ce n'est pas la servitude. C'est pas loin dans l'idée, mais il n'est pas facile à trouver celui-là.
L'exploitation des masses.
On est du point de vue de Dieu, hein, je rappelle, qu'est-ce qu'il aime bien. Servitude, bah, je pourrais presque le valider. Hein,
en fait, il aime bien que les gens l'adorent.
Ah, voilà, exactement.
Ah.
Alors, comment on pourrait
c'est
trouver
l'adoration,
une vertu ?
Alors
c'est presque ça. C'est là qu'on voit que le jeu, il est au second degré, parce qu'ils n'ont pas mis l'adoration, ils ont mis l'idolâtrie.
Ah ouais.
Donc, ce qui a un peu un sens un peu négatif, vous voyez. C'est-à-dire, on croit bêtement en Dieu, quoi. C'est un peu ça l'idée de l'idolâtrie pour moi.
Et du coup, on lui sert des coups à boire, c'est ça que tu comprends ?
Mais donc, les chansons, lui, il idolâtre les dieux. Mais je crois qu'il y a un truc religieux derrière, quand même. Les échansons, c'est aussi un... À l'époque, tu vois, dans l'Antiquité, c'était un truc... Ça devait être un bail religieux, je sais pas trop comment. Mais voilà.
Après, peut-être que l'idolâtrie, en anglais, a pas cette connotation aussi, tu vois, potentiellement négative.
Ah, peut-être, ouais.
Je sais pas. Ouais.
En tout cas, l'icône, c'est assez bizarre. On dirait une espèce de pièce, comme une pièce de monnaie, où dessus, il y a dessiné un œil égyptien. Vous savez, on voit des fois sur les hiéroglyphes quand ils dessinent un œil.
Ça pourrait être un miroir, non ?
Non, parce qu'on voit juste un œil. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est, honnêtement.
Ouais. C'est pas
encore
l'œil
un bail
Cain.
Religieux.
Ouais, c'est pas. Abel et Cain, l'œil était dans la tombe ou je sais pas quoi, là.
Ah bah peut-être, je sais pas.
Bon, on va devoir réviser nos classiques. Hein.
Ouais, donc là, c'est la foire aux à peu près.
Oh là là, ouais, carrément.
Et alors, il faut que vous imaginiez que du coup, pour chaque vertu, il y a à chaque fois 6 rôles. Ok ? Puisque je vous avais dit, vous choisissez une vertu, vous les mélangez, vous chopez un rôle. Donc, si je prends par exemple la possession, donc vous vous rappelez, c'était le rôle de l'orfèvre, bah, en fait, il y en a 5 autres. Donc je peux vous les dire, il y a le marchand de vin, il y a l'usurpateur, le voleur, il y a la noble et l'aubergiste. Voilà, ça, c'est ceux qui sont associés à la vertu de la possession. Mais sur les autres vertus, ils ont des scorings différents.
Ok.
Voilà. Maintenant, je peux vous donner des exemples de cartes commandements. Donc,
ah oui.
Qui ont des effets et tout ça. Donc comme je vous ai dit, les cartes commandements, elles ont à chaque fois 2 symboles, un petit texte d'ambiance... Et un effet. Et alors, en fait, les textes ambiance, ils sont toujours écrits comme si c'était des commandements. Vous voyez ?
Mm-hmm.
Genre, alors là, c'est très difficile pour moi de traduire parce qu'en fait, c'est écrit en vieil anglais exprès, mais sauf que nous, quand on traduit les commandements, généralement, vous savez, c'est tu ne tueras point ou des trucs comme
ouais,
ça.
Oui, c'est ça. Ouais.
On ressent moins le côté vieux dans le texte, je trouve. Même si point on le dit plus, tu vois, mais je trouve que en anglais ça marche beaucoup mieux parce que bah, déjà ils utilisent thou qui est l'ancien you, enfin voilà, c'est des trucs comme ça. Et il y a des moments où ils font exprès, j'ai l'impression, d'utiliser vraiment des mots mais ultra désuets que j'ai dû chercher un peu sur Google Trad pour les comprendre. Bref, ça se perdra dans la traduction, c'est pas grave. Donc par exemple, première carte qu'il y a, il y a le tribut. Donc le tribut au sens sacrifice. D'ailleurs, il y a l'icône sacrifice dessus et il y a aussi l'icône idolâtrie. Quand on joue le tribut, l'effet, la capacité spéciale, c'est chaque joueur doit choisir entre soit se défausser d'une carte, et donc il aura moins de choix pour les tours suivants, ou perdre 2 points de victoire. Et le texte d'ambiance, c'est « Tu brûleras des offrandes en commémoration de Dieu ». C'est pas mal, on dirait vraiment un commandement, hein.
D'accord.
Autre exemple de carte, on a la dîme. Donc là, les symboles, c'est la possession, donc l'argent, je vous rappelle, et le sacrifice. Et l'effet, c'est que là, tout le monde se défausse d'une carte, point barre. Et le texte d'ambiance, c'est « Tu donneras ta fortune à l'église ».
Ouais, c'est les impôts, quoi.
Oh, on dit la quête. On dit la quête, Matt, voyons.
C'est vrai.
Pas pareil.
Après, moi, je suis pour les impôts. Je dis ça, mais je suis pour les impôts. Mais bon, je ferme la parenthèse.
Oui, bien sûr. Tant qu'on peut prendre aux riches. Après, on a la communion. C'est une carte avec deux symboles idolâtrie et dont l'effet est le joueur qui a l'objectif idolâtrie là, va gagner 2 points de victoire pour chaque type de carte qu'il possède dans sa main. Donc j'imagine les types de cartes, je ne sais pas trop ce que c'est, mais j'imagine que c'est les épaisseurs différentes de cartes.
Ah oui, les 4 épaisseurs.
Ça doit être un truc comme ça. Et donc pour la communion, le texte d'ambiance, c'est « Tu boiras le raisin sacré à chaque banquet. » Voilà. C'est pour vous dire aussi qu'il y a des effets qui jouent aussi sur le fait d'avantager certains joueurs. Et donc, c'est pour ça que potentiellement, on aurait envie de voter pour ces effets.
Et donc, on fait seulement l'effet de la carte qui gagne, on est d'accord?
Bien sûr. C'est aussi pour ça que tu choisis de voter. Je vous en lis une dernière. C'est la sorcellerie. Donc là, les symboles, c'est la guerre et le prosélytisme. Et l'effet, c'est toutes les femmes se défaussent de 2 cartes.
Oh.
Donc, toutes les femmes dans la vraie vie, hein, bien sûr.
Ok. Et il y a le pendant masculin aussi, ou c'est que...
Je sais pas. Je crois pas, honnêtement. Bah, j'ai pas vu toutes les cartes, donc on peut leur laisser le bénéfice du doute. Mais je sais qu'il y a d'autres cartes qui jouent sur ça. Par exemple, il y a une carte qui fait des bonus pour les gens qui sont mariés.
Ah bah oui.
Ah ouais, ouais.
C'est excellent. Moi, ouais, je trouve ça rigolo.
Bah ouais, c'est pas si mal ce jeu, en fait.
Et t'as dit qu'on commençait avec combien de cartes en main quand on
t'en
commençait
as 4
la manche
au début.
Ouais,
t'en as 4
un de chaque.
En début de partie, t'en as 4. Mais t'en
donc
pioches une à chaque
une
tour.
Une de chaque type. Ah, d'accord.
Une de chaque type, ouais. Mais t'en pioches une au début de chaque tour. Donc t'as forcément au moins une carte au moment où tu dois voter. Mais si t'as défaussé trop de cartes, bah, à un moment donné, tu joues juste random.
Ouais, ça limite tes choix, ouais.
Mais tu peux choisir le paquet dans lequel tu pioches, t'as dit.
Oui, mais alors faut connaître la répartition du coup.
Ouais.
Sachant que vous avez vu que les effets, ça fait quand même souvent des fossés, hein, en vrai.
Oui.
En fait, c'est ça qui est dommage, c'est qu'ils avaient vraiment de la place pour faire plein d'effets différents. Mais en fait, finalement, c'est souvent machin défausse, machin pioche. Bon, c'est pas si rigolo, vous voyez, ça change pas trop les règles.
Moi, je remarque surtout que celui qui cible les femmes te fait défausser 2 cartes, alors que les autres, c'était qu'une seule.
C'est qu'une seule, ouais, c'est vrai. Il y en a qui font défausser 2 parfois aussi.
Ah.
D'ailleurs, la sorcellerie, le texte d'ambiance, c'est. J'essaie de le traduire un peu en désuet cette fois. C'est tu ne souffriras point de laisser une sorcière vivre.
Oh, punaise.
Sympa.
Ouais, bonne ambiance.
Sympa l'ambiance.
Ça y est, on va dans le malaisant, ça y est, on est parti.
C'est ça. Et donc, quitte à aller dans le malaisant, je vous propose qu'on regarde aussi des cartes de top 10, du coup, The Bill of Rights, donc l'autre version du jeu où on vote des lois, qui déjà a une couverture de jeu assez exceptionnelle. Parce qu'en fait, oui, j'ai pas parlé de la couverture des 10 commandements, mais elle est assez basique. En fait, on voit juste le titre et 3 images de Dieu comme ça. Ah non, c'est peut-être Moïse, je sais pas. Oui, si, ça doit être Moïse parce que c'est un mec qui tient les tables de la loi, donc ça doit être Moïse.
C'est ça.
Donc je pense qu'on voit 3 images de Moïse comme ça, bon, pas très intéressant. Alors que sur Bill of Rights, en fait, on voit, comment dire, une grande estrade avec un bureau où ils sont en train visiblement d'écrire des lois sur ce bureau. Et il y a plein de personnages, c'est très foisonnant comme image, il y a plein de personnages de partout qui essayent de, comment dire, d'atteindre ce bureau pour écrire des lois. Il y a genre, il y a un militaire un peu en mode Rambo, comme ça. Il y a un espèce de hippie qui fait le symbole peace avec les mains, comme ça. Il y a un espèce de gros bourgeois capitaliste. Il y a un curé avec une grande croix religieuse dans les mains. Il y a un espèce d'anarchiste avec un cocktail Molotov. Il y a un terroriste avec une ceinture de bombes. Voilà, plein de trucs rigolos, comme ça.
Ouais, moi j'étais partie sur une ambiance un peu père fondateur, tu vois, avec leur perruque et tout, mais non, c'est un truc plus contemporain en fait.
Ouais, bah c'est comme les 10 commandements, en fait, c'est l'idée qu'on réécrit les textes des pères fondateurs en fait.
Ouais, c'est
ça. Dans la thématique. Et du coup, là, les cartes qu'on joue, alors j'ai pas réussi à trouver des objectifs malheureusement de scan de cartes comme ça, mais les cartes qu'on joue, donc l'équivalent des commandements, du coup, c'est des droits. C'est-à-dire que les textes d'ambiance, c'est toujours formé genre le droit de faire ci, ça, ça, ci, ça, ça, ça. Mm. Donc par exemple, il y a une carte qui s'appelle Recherche et perquisition. Et le texte d'ambiance, c'est le droit au peuple d'être protégé contre les recherches et perquisitions abusives. Pour le coup, je ne savais pas, mais c'est un vrai amendement qu'ils ont, les Américains, quoi.
Et du coup, tu as des symboles aussi comme dans les 10 commandements ?
Ouais. Tout à fait, mais alors j'ai pas trouvé à quoi il correspondait, donc on va pas s'amuser, mais j'ai vu qu'il y avait par exemple un arc-en-ciel, il y avait une pancarte un peu de gréviste comme ça, avec des symboles qui font comprendre que c'est comme s'il y avait des insultes écrites sur la pancarte, tu vois, genre on n'est pas content. Il y a un fusil, je crois, pour représenter sûrement les militaires et tout ça.
Oui, ça doit reprendre les personnages de la couverture un peu.
Ouais, c'est ça l'idée. J'en ai trouvé deux autres. Alors, il y en a une, c'est autorité divine. C'est le droit pour l'État de gouverner sous l'accord et l'autorité de Dieu.
Mmh.
Excellent. Et on a même le droit de mourir. Donc, c'est le droit d'abréger la douleur et les souffrances de quelqu'un avec une mort paisible et au choix de cette personne. Donc, t'as l'euthanasie qui peut être votée dans le jeu, quoi.
Eh ben, c'est d'actualité.
Ah ouais, d'actualité, ouais.
Mais ouais, mais... Mm. T'es en 2009, t'as des nanars qui font ça, tu vois, et après... Enfin, je suis désolé, je trouve des trucs plus politiques dans des nanars que dans des jeux édités. C'est quoi ce truc-là ?
Ouais, tout à fait, ouais.
Ben voilà, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour du matos, du jeu et tout ça, à moins que vous ayez des questions, mais sinon on va passer à tout ce que j'ai à dire sur l'auteur, l'éditeur et tout ça. Donc on va parler des auteurs et autrices et de l'éditeur Bucephalus Games. Alors vous vous souvenez, je vous ai dit, il y en a trois, donc on va regarder chacune qu'est-ce qu'ils ont fait. Le premier, c'est Mike Selinker. Alors peut-être que les auditeurs et auditrices les plus geeks connaissent cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui a travaillé chez TSR, donc c'est ceux qui ont édité Donjons et Dragons et tout ça. Enfin, là, c'est du jeu de rôle, je ne vais pas trop m'aventurer là-dessus parce que je m'y connais moins qu'en jeu de société. Mais il a aussi travaillé chez Wizards of the Coast, donc jeu de cartes à collectionner, notamment Magic, bien sûr. Il a travaillé chez Avalon Hill, donc on fait aussi pas mal de jeux de société. Et ensuite, c'est devenu... En fait, il a fondé sa propre maison d'édition qui s'appelle Lone Shark Games, qu'il a cofondé avec James Ernest. Alors, James Ernest, c'est le mec qui ensuite fondera Cheapass Games, dont je parle assez souvent, qui était un éditeur qui essayait de réduire à fond le prix des jeux en les mettant dans des enveloppes pour pas qu'on paye le prix de la boîte et tout ça, et qu'ils ne mettaient pas de dés ni de cubes dans ces jeux, parce que vous les avez sûrement déjà chez vous. Mmh. Et donc, ouais,
et donc
voilà.
C'est des gars qui viennent pas de nulle part, quoi.
Ouais. Exactement, c'est ça qui est intéressant, surtout.
Ils ont un bon CV, hein, parce que souvent, dans tes nanars, quand même, t'as des gens, bon, tu sais pas d'où ils viennent,
ouais,
tu sais pas ce qu'ils ont fait.
Ils ont sorti un jeu, un nanar, ouais, et puis
exactement.
Plus rien.
Là, il y a du pédigré quand même. Et
tout
quelque part, ça se sent. Tu vois, je trouve que c'est un jeu qui mérite de l'attention pour toutes les raisons que tu as énoncées, là, qu'on énonce depuis le début.
Tout à fait. Mais du coup, Mike Selinker, c'est notamment un des auteurs de Betrayal at House on the Hill, que j'imagine vous connaissez.
Ouais.
C'est aussi un des auteurs de Pathfinder Adventures. Je ne sais pas si vous avez joué à ça, une espèce de mode jeu de société de Pathfinder.
Ok, moi j'ai joué à Pathfinder, mais pas à version jeu de
société. Pas la version Adventure, non.
Ouais, c'est plutôt cool, hein. Moi j'aime bien Pathfinder Adventures, je peux vous le recommander. Et c'est également Mike Selinker, un des deux auteurs de Axes et Alliés, Axis and Allies, que, très connu dans le monde du wargame. Donc c'est vraiment pas n'importe qui, le mec. Et donc il a fait pas mal de jeux, notamment, bah, comme je disais, avec James Ernest, puisqu'ils ont cofondé Lone Shark Games ensemble. Donc notamment Lords of Vegas, vous avez peut-être entendu parler de ce jeu-là. Ça, c'est plus connu aux États-Unis, ce jeu-là.
Moi, ça me parle pas du tout.
Pas du tout. Bon, c'est...
Non.
C'est plus connu aux États-Unis, mais ils ont fait aussi un jeu ensemble que je trouve rigolo qui s'appelle Unspeakable Words, qui est pas très connu, qui est un jeu, un espèce de Scrabble, mais avec une thématique à la Cthulhu, où du coup le nombre de points que vous mettez, c'est le nombre de points qu'il y a dans chaque coin de votre lettre. Genre la lettre E, il y a 4 coins dans la lettre E. Oui, des angles droits. Combien il y a d'angles droits dans votre lettre?
Ah ouais. Oh. Ok.
Qui est une référence au chien de Tyndalos dans les trucs de Lovecraft. Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, en fait, les points, je crois que c'est des dégâts de santé mentale qu'on met aux adversaires. Et quand t'as plus de santé mentale, tu commences à avoir le droit d'écrire des mots qui veulent plus rien dire parce que t'es fou, tu vois.
Mm.
Tu peux écrire flugglblblbl, il n'y a pas de souci. Voilà.
Et tu peux même le dire.
Et tu dois le dire. C'est dans la règle du jeu. Donc voilà, Mike Selinker, premier auteur, a priori, voilà, bon pédigré, comme tu disais, Mad. Ensuite, on a Tu Win Woodruff. Je ne sais pas si je prononce bien son prénom. Donc elle a aussi travaillé chez TSR. Mais elle, ensuite, elle est allée d'abord chez White Wolf. Donc chez White Wolf, c'est aussi un éditeur de jeux de rôle. Et elle a travaillé beaucoup sur Vampire la Mascarade,
ouais.
Je pense que vous connaissez.
Ouais, ou Mage, moi j'ai joué à Mage beaucoup.
Et ben voilà, elle a travaillé aussi sur Mage, sur Werewolf, voilà, tous les jeux un peu de White Wolf, elle a fait pas mal de suppléments et de trucs comme ça. Elle a été beaucoup plus active dans le milieu du jeu de rôle, pour le coup, elle. Et d'ailleurs, elle a écrit, parce qu'ensuite elle est aussi chez Wizards of the Coast, donc elle a aussi travaillé sur des extensions de Magic, par exemple. Aux alentours de la 7e édition, c'était à l'époque. Et elle a travaillé sur des bouquins. Elle a écrit beaucoup de bouquins de stratégie de Vampires et Eternal Struggle, hein, le jeu de cartes à collectionner de vampires dont je parle assez régulièrement à l'antenne. Donc très très cool. Mais sinon, chez Wizards of the Coast, elle a travaillé aussi sur Netrunner. Alors à l'époque, c'était Android Netrunner, hein, puisqu'on est dans les années 90 là, hein, quand je raconte ça. Elle a travaillé sur BattleTech, s'il y en a qui ont connu BattleTech, sur Pokémon ensuite, ou Duel Masters, qui est assez connu aussi. Ouais, elle a bossé sur plein de trucs comme ça. Et du coup, j'ai appris qu'avec Mike Selinker, donc le premier auteur, là, ils étaient dans une équipe de conception d'un jeu de rôle, en fait, dans l'univers de Magic. Un projet qui a été annulé en 1996, du coup. Mais il a failli avoir un jeu de rôle de Magic, quoi. C'est fou.
Ouais, c'est fou.
J'ignorais tout ça. Et alors, là, je ne sais pas, mais sur sa page Board Game Geek, c'est dit qu'elle a cofondé Lone Shark Games, elle aussi. Mais alors, c'est bizarre, parce que sur la page de Mike Selinker, c'est écrit qu'il l'a juste cofondé avec James Ernest. Alors, je sais pas.
Ouais, mais ça, on connaît, c'est l'invisibilisation des femmes.
C'est ça.
Tout ça.
C'est ça. Je me demande si c'est vraiment ça ou si c'est juste une erreur, en fait, parce que je sais pas si elle a pas juste travaillé plus tard chez Lone Shark Games, parce que j'en sais rien, en fait. C'est vraiment très bizarre. J'ai pas réussi à trouver l'information ailleurs. Aucune idée. C'est un mystère à résoudre. En tout cas, après, elle a bossé en freelance. Du coup, elle n'était plus chez des éditeurs ni quoi que ce soit. Et elle a travaillé notamment pour des jeux télévisés. Donc, notamment en tant que game designer et tout ça. Nous, ce qu'on connaît peut-être comme jeu, c'est Survivor, qui est l'équivalent de Koh-Lanta aux États-Unis.
Ouais.
Donc voilà, qui est un peu pareil, très connu comme jeu télévisé, quoi. Elle a aussi écrit des romans de fantasy. Voilà, donc elle est très prolifique, cette dame. Et pour ce qui nous concerne, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les jeux de société ici, elle a écrit des bouquins de quête d'extension de Descent, très précis. C'est aussi une des autrices de Betrayal at House on the Hill, avec donc Mike Selinker. De toute façon, Betrayal, il y a genre Je sais plus, ils sont 6 ou 7 hein, à la conception de ce jeu. Notamment, il y a Rob Davieux qui fait partie de cela. Et sinon, elle a aussi fait des jeux un peu plus bizarres, comme un jeu qui s'appelle Star Sisters, qui est un jeu de bijoux à collectionner.
Et des bijoux, t'as vraiment des petites gemmes, des petits...
Ouais,
ou
c'est ça.
Ou c'est des cartes petits... avec des bijoux dessus.
Non, non, c'est des vrais bijoux.
D'accord.
Qui sont tous différents, avec des raretés, enfin, comme les jeux de cartes à collectionner, sauf qu'au lieu d'avoir des cartes, t'as des bijoux, tu vois.
D'accord.
Enfin, plus exactement, t'as des cartes et des bijoux. Et l'idée, c'est que... Alors, c'est ambiance, tu vois, le stéréotype de ce que, au milieu des années 2000, on appelait les jeux de filles, tu vois.
Ouais.
Donc, t'as vraiment un truc en mode... l'idée, c'est que ça se joue dans des pyjamas parties. En fait, t'as des... T'as des actions, c'est un genre de jeu action ou vérité, quoi. Mm. Et selon si tu gagnes aux actions ou vérité, bah, tu vas gagner des bijoux. Enfin, tu vas t'échanger les bijoux, tu vois, tu vas prendre les bijoux de l'autre, etc. Enfin, tu sais, un petit peu comme dans les débuts de Magic, où quand tu perdais, t'étais censé donner des cartes à l'autre, quoi. Mm. Tu vois, on met en jeu nos bijoux.
Ok.
Elle a aussi fait un jeu qui s'appelle Warstone, qui est un jeu de billes à collectionner cette fois. Mais là, elle est co-autrice avec d'autres auteurs. Et c'est marrant, c'est des billes, mais avec une ambiance médiévale fantastique. Enfin, truc très bourrin comme ça, mais c'est des billes. Ça peut être rigolo, même si les deux jeux-là ont des notes de merde sur Board Game Geek. Donc, je ne pense pas que ce soit des très bons jeux. Voilà. Et après, elle n'a plus rien fait. En jeu de société, en tout cas à partir de 2009, donc c'est là qu'elle était plus voilà, dans les trucs de jeux télé, de romans de fantasy et tout ça. À part en 2019, donc après cette pause de 10 ans, elle a fait deux petits party games qu'elle a fait avec justement Mike Selinker, le premier, et James Ernest, donc le mec de chez Cheapass Games, qui ont tous les trois édité ces deux petits party games chez Lone Shark Games. Donc la maison d'édition, où je ne sais pas s'ils sont deux ou trois, du coup. Et c'est des jeux qui sont en print and play. Voilà, dédicace à Julien, s'il veut les imprimer. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui a été une figure de proue un peu des autrices dans le milieu à l'époque. Parce que bah, notamment dans des interviews et tout, elle dit que quand elle a débarqué chez White Wolf à l'époque, c'était la seule meuf, c'était la première meuf qui était là-bas. Et pareil chez Wizards of the Coast, plus tard quand elle y est allée, quoi. Apparemment, c'était quelqu'un de très féministe aussi. Et en général, très de gauche, je pense, parce qu'ils appellent ça démocrate, les Américains. Mais les démocrates, c'est bien ceux qui sont de gauche, hein, on est d'accord.
Oui, parce que les autres, c'est les républicains.
Oui, c'est ça, voilà. Mais franchement, c'est pas clair pour des Français, je trouve, comme terme. Donc voilà, disons de gauche. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui est décédé en septembre 2023. Elle est morte d'un arrêt cardiaque à seulement 57 ans. C'est un peu triste.
Parce que j'étais en train de me dire, il faut l'interviewer, cette dame.
Oui, bah, malheureusement, tu ne pourras pas. Mais après, il y a déjà des interviews qui traînent d'elle sur le net, mais en anglais seulement. Mais en tout cas, puisqu'elle est badass jusqu'au bout, moi, je suis tombé sur sa plaque commémorative, tu sais, en ligne.
Ouais.
Et tu sais... C'est dit, bon, je vous fais pas tout le truc, mais à la fin, ça dit, il y aura une commémoration tel jour, nanana, tel lieu. Et ça termine par, au lieu d'amener des fleurs, faites plutôt un don à tel assos qui lutte pour les droits à l'avortement. Excellent.
Tu rappelles son nom?
Son nom, c'est Tewin Woodruff. Voilà.
Ça, ok, bon, j'imagine que tu mettras dans le billet toutes les Bien infos, sûr. Tout ça, pour qu'on la retrouve, ouais.
Bien sûr. Donc, elle, c'était la deuxième autrice. A priori, le problème vient pas trop de là. Donc, il reste le troisième. C'est-à-dire que le côté nanardesque, le côté nanardesque du jeu va peut-être venir du troisième auteur, vous voyez.
C'est ça, parce que là, on est tombé sur un truc un peu sérieux. Tu vois, on s'est cru à sortons le grand jeu, tu sais, ce genre d'émission.
Et donc, le dernier, c'est Dan Tibbles, qui est...
Ah, c'est celui qui a fait les illustrations aussi, que tu pressentais, c'est ça?
Je pressens que c'est lui qui a fait les illustrations, parce qu'en fait, lui, c'est le président de Bucephalus Games, donc l'éditeur du jeu.
Mm. Alors, moi, je crois savoir qui c'est, Bucéphale, en plus.
Ah, vas-y, dis-nous. Moi, je sais ce que c'est aussi.
Pour moi, Bucéphale, c'est le nom d'un cheval. On est d'accord ?
Exactement.
Et c'est le cheval d'Alexandre le Grand, je crois.
Ouais.
Tout à fait. C'est le cheval d'Alexandre le Grand.
Ok, pour un coup que je ne suis pas à côté. J'aimerais qu'on note, on est à combien de minutes là d'enregistrement.
Et leur logo, c'est Bucephalus Games écrit, mais le B, il est dans une tête de cheval, effectivement. Donc,
ah, voilà.
Clairement la ref.
Donc vas-y, dis-nous tout.
Donc ouais, c'est lui le président de Bucephalus Games. Et alors, quand on lit la première phrase de la description Board Game Geek de Bucephalus Games, quand on veut se renseigner sur cet éditeur, la première phrase, c'est « Si tu dois y aller, il faut que tu y ailles à fond. » C'est ce qu'aurait dit Dan Tibbles au lancement de sa maison d'édition. Parce qu'en fait, sa stratégie, c'était de se lancer en... Donc, on était en 2008 à l'époque. Et de se lancer en éditant 37 jeux d'un coup.
Ok.
Et ouais. Et avec des auteurs et des illustrateurs, on va dire, plutôt connus. Donc là, bah, voilà, vous avez vu, je vous ai parlé de Mike Selinker. James Ernest aussi, il était dans le tas, le mec de Cheapass Games. Tywin Woodruff, elle était quand même assez connue aussi un peu dans le milieu, plus du jeu de rôle, elle. Même les illustrateurs, il y avait des mecs comme John Kovalik. Si vous voyez, hein, c'est celui qui illustre Munchkin, par exemple.
Mm. Oui, oui.
Ou Jason Engel, qui a fait pas mal de cartes Magic et de trucs comme ça. Donc voilà, il s'est dit, ah, j'y vais avec les gros moyens, quoi, direct.
Et il était crédité dans les auteurs pour chacun des jeux qu'il comptait éditer, ou ?
Alors non, il a pas été auteur sur tous les jeux, mais je sais pas, il y a bien un tiers peut-être des jeux où il est auteur ou co-auteur. Et souvent aussi, il était aux illustrations. Donc c'est pour ça que je me dis, il y a peut-être moyen que ce soit lui qui a fait les illustrations de The Ten Commandments, tu vois.
Mais il a réussi son pari ?
Eh bien non, puisque finalement, il a juste...
Et vas-y à fond !
Il a juste sorti 18 jeux quand même, c'est déjà pas mal.
Ah, c'est déjà pas mal.
C'est pas mal, ouais.
Mais en l'espace de 2 ans, et ensuite, voilà, finito Bucephalus Games.
Rentre à ton écurie.
Voilà. Donc ça... Donc, après, il n'a pas fait des jeux que chez Bucephalus Games. Il avait notamment déjà en 2000 travaillé... En fait, il avait déjà travaillé sur des jeux de cartes à collectionner. A priori, il avait travaillé sur un jeu qui s'appelle Magination Duel, peut-être, un truc comme ça se prononce. C'est son seul jeu à avoir une bonne note. Donc, c'est notable. Bon, c'est un jeu de cartes à collectionner, donc j'imagine qu'il ressemble beaucoup à Magic. Mais sinon, il avait bossé aussi chez un éditeur qui s'appelle Score Entertainment, qui faisait aussi du jeu de cartes à collectionner. Il a notamment travaillé sur Dragon Ball GT, le jeu de cartes à collectionner, ou Yu Yu Hakusho, jeu de cartes à collectionner. Et oui.
Mm-hmm.
Voilà, pour les connaisseurs. Bon, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment ce qu'il a fait chez Bucephalus Games.
Alors, sa phrase, là, son mantra, c'était quoi déjà ?
C'est « Si tu dois y aller, il faut que tu y ailles à fond ».
Ouais, parce que ça me fait penser à une phrase de Colette, donc de Salle des Ambiances, qui dit « Faites des bêtises, mais faites-les avec enthousiasme ». Je me demande s'il n'a pas pompé sur Colette, quand même.
Il y a une idée, mais tu vois, lui, c'est vraiment le truc beaucoup plus américain, tu vois.
Ouais, bah c'est ça. Donc là, c'est la méthode française, tu vois, ouais, et puis lui, avec les gros, bah voilà, gros bourrins, quoi. Enfin, le classique.
Oui,
je ferme la parenthèse.
Nous sommes des bons vivants, les Américains sont des bourrins. C'est tout ce qu'on retiendra.
C'est ça.
Donc je disais, on va s'intéresser aussi plutôt à ce qu'il a fait chez Bucephalus Games, puisque évidemment, c'est là qu'on va trouver des nanars. Alors, je vais me concentrer évidemment que sur ces jeux nanardesques. Hein. Ce serait pas drôle sinon. Il a fait un jeu qui s'appelle Roman Taxi, donc un jeu où on joue des Romains à l'époque romaine qui sont des taxis. Voilà, je sais pas pourquoi.
Ok.
Donc en fait, là, moi, j'imagine des trucs à porteurs, là, c'est ça, où t'as des mecs.
Ouais,
qui
ouais,
les autres.
Petites,
C'est ça, voilà. Je sais pas si ça a vraiment existé ce truc-là, mais je sais pas, ça me semble un peu bizarre. Et à mon avis, ça s'appelait pas des taxis en tout cas. Et surtout, il a fait un autre jeu que je retiens, qui s'appelle Toboggan of Doom, qui qui se traduirait...
Rien que le nom est un voyage.
Le nom est un voyage. Ce qu'on pourrait traduire par les toboggans de l'enfer ou du destin infernal ou un truc comme ça. Ouais. Ou c'est un jeu où en
ça
gros...
Ça se passe dans une fête foraine ?
Ben non, même pas. C'est, ça se passe à la montagne. Et en gros, tu fais de la luge. Tu fais de la luge, tu vois. Mais pendant que tu te fais attaquer par des trucs de partout, comme ça. Genre, il y a des sapins maléfiques dans le jeu qui t'attaquent. Il y a une armée de bonhommes de neige. Il y a des requins qui sortent de la glace, comme ça, pour te bouffer.
Alors, du bobsleigh sauvage, quoi.
Oui, c'est du bobsleigh sauvage. Et il y a même... La pire carte, c'est ton ex-copine.
Oh,
oh génial.
Oh non.
Moi, j'ai l'image, tu sais, du jeu vidéo Doom, le mec là.
Oui, le Doom
si
Guy.
Avez... Ouais, ouais. Où en fait, au fur et à mesure qu'il s'en prenait plein la tronche, t'avais la petite icône en bas où il commençait à saigner de partout. Et donc là, moi, je vois ce mec qui descend en luge avec tous les trucs qui tombent sur la tronche. Ouais,
ouais c'est ça, des aliens qui l'attaquent et tout. Et après, en fait, en gros, tu fais des... Oui, des pioles. Et t'as des... Tu vas faire des améliorations après sur ta luge. Donc, genre, tu vas pouvoir lui mettre des lance-flammes.
Des grappins. Pour bien se défendre.
Pour t'attacher aux arbres. Ou il y a même des jambes mécaniques, comme ça. C'est des gros pods, comme ça, mécaniques.
Excellent. Donc ça, c'est un jeu de société.
C'est un jeu de société, oui.
Ah, putain. Ok. D'accord. Je veux voir des photos du jeu. Je veux voir des photos du plateau.
Tu auras le droit après l'émission. Ouais. Considérez que tous les jeux, sauf son premier jeu de cartes à collectionner, la Imagination Duel, tous ces jeux ont une note inférieure à 5 sur 10. Mm. Notamment Toboggan of Doom, malheureusement. Mais par contre, moi je suis chaud de reprendre la thématique de Toboggan of Doom pour en faire
Mais
un
ouais.
bon.
Mais tellement.
Trop
bien. Tu pourrais même faire un crossover avec le worst case scénario survival game, hein, je pense. Hein, tu vois, en mode,
Donc.
Les dangers de la nature et tout ça, ça peut.
Bah bien sûr.
Ça peut se croiser.
Les fameux arbres maléfiques, les sapins maléfiques.
Oui, bien sûr. Ouais.
Après, chez Bucephalus Game, il y a aussi d'autres jeux que je note un peu nanardesques, mais qui sont pas de lui. En jeu pas nanardesque, il y a un jeu qui s'appelle Kashina, c'est à peu près le jeu le plus populaire qu'ils ont fait. Peut-être que des gens connaissent la réédition qui s'appelle Voluspa. Peut-être des gens qui ont joué à ça. C'est assez obscur, mais voilà.
Qui nous le disent.
Ça me parle pas.
Moi, je connaissais, donc peut-être qu'il y a des gens qui connaissent. Voilà, si vous connaissez, ben voilà, c'était originellement un jeu de chez Bucephalus, mais c'est pas le même auteur, donc voilà. Mais sinon, il a édité d'autres jeux, notamment un jeu qui s'appelle Zombie Moche. Alors... Attention, moche c'est en anglais.
Ah oui, c'est pas ta traduction.
Ce n'est pas ma traduction.
Mais moi, je dis, on garde comme ça en français aussi.
vous savez, le moche, cette danse qu'on voit à la base dans le punk, mais ensuite dans le metal, où tu sais, un peu comme le pogo, quoi. Vous savez, on va un peu se rentrer dedans. Et donc l'idée, c'est que c'est oulala, c'est des zombies qui dansent dans une boîte de nuit, trop cocasse. Okay.
Bon, que le mec est drôle quand même. Ouais, le mec est drôle.
Le mec est drôle, ouais. Mais c'est pas lui l'auteur.
Oui,
là,
oui. Oui, je sais. Mais bon, il est quand même à l'édition, quoi.
Oui, tout à fait. Il a quand même validé ce truc-là.
Ouais, il a dit ça. Ok, on y va. Go. Les cocos, on tient un truc. On y va.
Sachant que dans tout le jeu, la typographie qui est utilisée, c'est celle d'Iron Maiden. Donc,
c'est
clairement.
Après, quand tu veux produire. 35 jeux à la sortie, tu prends aussi un peu tout et n'importe quoi. Hein.
Bah oui, c'est ça. C'est ça le truc. Et un dernier que je dénote aussi, c'est un jeu qui s'appelle The Suicide Bomber Card Game. Donc le jeu de comment on pourrait appeler ça le jeu de cartes de l'attentat suicide à la bombe.
Ouais, du kamikaze.
Kamikaze, ouais. Un truc comme ça. Avec écrit sur la boîte « Attention, humour explosif
oh, ». Très bien, mais bien sûr, c'est ça qu'on veut. Et allez.
Voilà, donc tout ça pour vous donner le contexte dans lequel The Ten Commandments a été édité. Sachant que, en fait, Ten Commandments et Bill of Rights, ou Top Ten, vous avez capté, comme je vous dis, c'est deux fois le même jeu, avec en fait, c'est même pas vrai, je vous ai dit que c'était une réédition, mais c'est plutôt deux skins différents du même jeu qui sont sortis la même année, puisque en fait il a sorti quasi tous ses jeux en un an, je vous rappelle.
Ah oui.
Donc en fait il a sorti les deux jeux en même temps, avec deux thématiques différentes.
Mmh. Ouais, ça donne un peu l'impression que, tu sais, quand t'as des éditeurs qui reçoivent des jeux, des protos, des auteurs, là, et en fait, ils hésitent entre deux univers, deux thématiques, et puis, bon, allez, on fait les deux.
Eh oui, comme ça, il en coche un parmi les 37, tu vois. Puis...
C'est ça, ouais.
Mais moi, je trouve que, voilà, ils n'ont pas tranché, en fait. Ils ont dit, allez, on fait les deux, c'est bon.
Ils ont fait les deux. Mais je trouve qu'en vrai... C'est peut-être un cas assez unique dans l'histoire du jeu de société, pour le coup. Je ne suis pas sûr de connaître d'autres jeux comme ça qui ont sorti deux boîtes. Alors, des boîtes différentes, oui, hein, on connaît tous Abyss, par exemple, différentes. Mais deux vraiment thématiques différentes en même temps et que c'est le même jeu.
Ouais, c'est drôle.
Ouais, deux thématiques du même jeu.
C'est bizarre, hein.
Ouais.
C'est assez unique. Écoutez, voilà, c'était ce que j'avais à vous dire sur l'auteur... Enfin, les auteurs, autrices et l'éditeur. Et avant qu'on donne nos propres petits commentaires sur tout ça, je vous ai recueilli, des commentaires que j'ai trouvés sur Board Game Geek et qu'on va lire. Donc j'ai séparé les deux, donc on va d'abord lire les commentaires de The Ten Commandments. Donc c'est un jeu qui a une note de 3,5 sur 10, c'est donc très mauvais évidemment, qui sur 23 notes, c'est pas beaucoup, et il y a 13 commentaires. Alors d'abord on a Monkey Thin qui a mis 1 sur 10, il dit « un jeu ennuyeux, sans saveur et cassé ». Qui a à peu près autant de stratégie que le Morpion. Voilà. Évidemment, je vous les traduis. Je vous les ai traduits. Hein.
Ça c'est fait, rhabillé pour l'hiver.
C'est bon. Ensuite, on a Brian L. Daouti qui a mis 2,8 sur 10. Il aime les notes.
C'est bien, c'est précis. Ouais. Ouais. Précise, on aime bien quand c'est précis comme ça.
Exactement. Il a dit une thématique blasphématoirement amusante, mais un jeu complètement inintéressant. Eh oui, parce que c'est amusant quand c'est blasphématoire. Nous, on aime ça.
Ouais, et c'est peut-être avec ce commentaire-là que tu as trouvé le jeu, non? Parce que tu ne nous as pas dit comment tu avais trouvé le jeu.
Bonne question. Je crois que j'ai dû le trouver dans une de mes fameuses geek listes obscures dont j'ai le secret.
Ok, ça marche.
Il me semble que c'est là que je l'ai trouvé.
Dans le Dark BGG.
Ouais, c'est vraiment un jeu, vous ne le trouverez pas. Alors, on peut encore se le procurer, mais j'ai vu, il est chez Noble Knight, c'est une boutique un peu connue comme ça sur les internets américains. Mais du coup, vous devez le commander aux États-Unis, donc vous allez payer des frais de douane de taré. Donc je pense que...
Et voilà, là, faut les commentaires, ils datent de la sortie, 2009, du coup
C'est une bonne question. Ça dépend lesquels, en fait.
Je n'ai que des bonnes questions.
C'est vrai. Non, ça dépend lesquels, en fait. Il y en a que je vous lis qui datent même jusqu'à 2016. Donc... C'est variable. Et le dernier que je vous ai sélectionné, c'est un commentaire de K.L. Donnelly, qui a mis 6 sur 10.
T'allais dire K.L. Hervé.
K.L. Hervé,
il est partout. Il est partout.
En plus il est tout le temps, il y a toujours le lore de K.L. Hervé qui est qu'il écoute les nanars ludiques toujours dans des conditions qui se passent dans la vraie vie, tu vois, genre quand il était en voyage en Angleterre et tout ça.
Tout à fait, là, peut-être qu'il sera à la messe, là.
Peut-être qu'il est à la messe, ouais, je sais pas. Ou à un mariage. On verra. Tu nous diras Cal Hervé. Donc, là, c'est son cousin américain, donc Kyle Donnelly.
Oui, c'est ça.
Qui a mis 6 sur 10, donc. Ah. Qui dit, mécaniquement, c'est exactement le même jeu que Top 10 The Bill of Rights.
Ok, clever.
Voilà. Je me suis rendu compte que je préférais la thématique de Bill of Rights et que le thème était une chose importante pour moi dans un jeu.
Ok.
Quelque part, c'est beau. Il a découvert que, grâce à ces jeux, que la thématique était une chose importante. Et du coup, à Bill of Rights, il a mis 7 sur 10.
Ouais, parce qu'en fait, c'était quand même un cas unique de sortie du même jeu à peu près au même moment avec deux thématiques différentes. Et lui, c'est le gars qui a joué aux deux jeux.
Oui, c'est clair.
Ils doivent pas être nombreux.
C'est clair. Alors sur Top 10, du coup, Bill of Rights, ça fait très plaisir de l'appeler Top 10 à chaque fois. Il a une note BGG de 4,4 sur 10. C'est un peu plus, un peu mieux. Bah ça, c'est clairement à cause de Kyle Donnelly. il a un peu plus de notes aussi, il en a 36. Et il a 23 commentaires, un tout petit peu plus aussi. Je vais pas tous les lire parce que là, en gros, ça va être beaucoup de gens qui se demandent est-ce que le jeu a été playtesté. ça revient souvent. beaucoup de gens aussi qui disent que le fait que les égalités font passer le tour, c'est complètement débile parce que du coup, ça rallonge le jeu pour rien. Évidemment. Okay, et donc bah, généralement,
on a réglé le problème, c'est bon.
Bah, voilà, mais la plupart des gens disent il faut une variante pour ça. Et un autre point aussi que je vous ai pas dit mais que les gens ont souligné, c'est qu'en fait parfois on peut tomber sur la même carte, c'est-à-dire que les cartes sont pas en un seul exemplaire, elles sont parfois en plusieurs exemplaires. Donc si je sais pas, Caducée, tu joues la sorcellerie et moi aussi, et ben en fait nos votes vont être cumulés, la valeur des deux votes sur les cartes vont être cumulées comme si on avait joué une seule et même carte, mais en fait tu places quand même deux jetons, tu vois. Donc du coup c'est complètement pété parce que ça fait qu'il y a deux fois plus de jetons sur les cartes, donc évidemment qu'elle va passer la carte, et donc tout le monde met son 7 et son 6 et puis voilà, et tout le monde gagne des points, c'est complètement débile.
Moi je dis on devrait jouer à l'épaisseur.
Mais je crois que du coup elles viennent du même paquet.
T'es sûr de ça? Sorcellerie c'est dans le même paquet?
Je suis pas sûr, non, mais ça serait drôle. Alors il y en a qui disent que du coup ce qu'ils font c'est que quand on révèle la même carte ils les défaussent, tu vois, vraiment la même variante que t'as proposé, Mad, pour les égalités, mais là, c'est pour cet autre type d'égalité, quoi.
Ouais, c'est le just one dans le top 10.
C'est ça.
Ouais, ce qui serait logique, hein, parce que t'as deux personnes qui arrivent pas à se mettre d'accord, et puis t'as deux lois qui se contredisent.
Oui, bah oui.
C'est comme dans Prey Another Day, quand t'as les deux animaux qui sont en concurrence, et puis finalement qui rentrent bredouille.
Carrément, carrément. Bah ouais, ou stupide vautour ou tout ça.
Oui, c'est ça.
Y a un autre commentaire aussi qui disait qu'apparemment, il aurait deviné que l'épaisseur des cartes, les paquets avec l'épaisseur, apparemment, ce serait pour dire le poids qu'ont les lois qui sont votées dans Bill of Rights. Enfin, dans Top 10, du coup.
Ouais. Alors, moi, j'ai un principe dans la vie, c'est que quand je comprends pas quelque chose, je me dis, les gens qui ont fait ça ont forcément une bonne raison.
C'est
et
ça.
Que justement tout le jeu c'est de trouver quelle est la bonne raison et bah, l'hypothèse de la, parce que depuis tout à l'heure je cherche le pourquoi des cartes plus épaisses que les autres, quel est le sens de tout ça, et l'hypothèse est intéressante.
Ah, ce serait l'importance.
Est-ce qu'elle rapporte plus de points ces cartes épaisses?
Bah ça non par contre, mais ce serait l'importance thématique, tu vois.
Ouais,
parce que sinon ce serait logique, sinon tu piocherais juste dans le gros paquet, tu vois, puisqu'elle te rapporte plus de points.
Musique.
Et le seul commentaire que j'ai gardé en entier, c'est un commentaire de Dragoond. Il a mis 8 sur 10. Et il dit « Impossible à simuler, mais une bonne idée qui nous éduque et stimule la pensée et les discussions. » Là, il écrit en majuscule « Les régimes totalitaires soutiennent le port d'armes privées ?» Et là, plus en majuscule « Alors Washington et les autres pères fondateurs étaient totalitaires, et George III, Mao, Staline et Hitler, etc., ne l'étaient pas. »
Oula.
Ouais.
Ça, pour moi, c'est à peu près le niveau de politique des gens sur Twitter, ça, j'ai l'impression.
Ouais, c'est ça, ouais.
C'est que des biais par association, on comprend pas ce qu'il dit,
ouais,
le gars.
Et puis des raccourcis incompréhensibles, ouais.
Oui, oui. Je sais pas ce qu'il voulait dire au début par impossible à simuler. Hein.
Oui.
Mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Qui nous éduque et stimule la pensée. Quelque part, lui, il y joue comme s'il jouait à Feelings un peu, en fait, tu vois.
Peut-être, oui.
Alors, je précise que quand il dit les régimes totalitaires, il met des guillemets. Genre soi-disant. Vous voyez, totalitaire.
Ouais, c'est ça. Ouais, il y a un petit coup de complotiste en même temps, tout ça. Ouais, mais c'est savoureux.
Ou alors peut-être ou peut-être que juste il cite pour citer la carte. Non, j'avoue, je voudrais pas lui faire un procès d'intention. Mais bon, soutiennent le port d'armes privées. Ah, bah dans ce cas, Washington, c'est totalitaire. Oh, bah non. Il faut réviser la logique, monsieur Dragoon. Ok, bah écoutez, c'était le dernier commentaire que je vous ai présélectionné. Et donc, je vous propose que maintenant, bah, si on a envie de parler un petit peu, nous aussi, de mettre notre petit commentaire sur ces deux jeux, finalement, puisque c'était un peu deux jeux en un, on peut le faire maintenant. Écoute, tout à l'heure, Caducin a parlé en première, donc on va laisser Mad commencer cette fois-ci, si tu as des trucs à dire sur tout ça.
Je trouve que les auteurs-autrices, par rapport aux autres épisodes, sont intéressants, enfin... C'est chouette d'avoir pu les mettre un petit peu en lumière, parce que même le fameux Dan, c'est quand même un doudingue qui a des idées. Enfin, j'aime bien les gens qui ont des idées un petit peu farfelues et qui y vont, quoi. Donc, oui. Ça m'a fait plaisir de les découvrir. C'était le moment un petit peu sérieux de l'émission. Après, le jeu, même s'il a l'air bien barré sur plein d'aspects, il m'intrigue, en fait. Si tu veux, les autres fois, c'était marrant et tout ça, et voilà, on en parle pendant une heure et on peut passer à autre chose. Là, il m'interpelle plus et j'ai envie d'aller voir les cartes et puis de voir un petit peu. Je trouve que le coup de la sorcellerie, par exemple, c'est violent et en même temps, c'est cool qu'on puisse en parler, quoi.
Bah, carrément, ouais.
Donc, et comme tu dis, tu parlais, ouais, un jeu édité, enfin, ils y sont allés jusqu'au bout, et puis, ouais, c'est peut-être le moins nanardesque des nanars, quoi. Tu vois, je pense que le mec dans sa luge, là, qui tire sur tous les monstres qui jaillissent, avait un potentiel nanardesque plus grand, mais je trouve que c'est chouette quand même qu'à travers ce choix de jeu, on ait pu parler de tous ces sujets. Donc, ouais, merci, c'était chouette.
Bah, trop bien, ça fait plaisir. Et Caducée, du coup, est-ce que tu veux rajouter des trucs, toi, sur tout ça ?
Alors, sans faire doublon, moi, je pense que sur une base de nanar, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas non plus complètement inintéressant. Hein. Je serais beaucoup plus attirée par Alors, pas le premier, puisqu'ils sont sortis en même temps, mais celui... qui est dans une ambiance plus contemporaine, hein, donc top 10 plutôt que les 10 commandements, parce que je pense que ça peut être retravaillé et puis se baser sur quelque chose qui pourrait amener des discussions effectivement politiques plutôt intéressantes et oui. avec un système de d'icônes là comme on a déjà parlé qu'on va aussi retrouver dans Reigns. Que tu peux avoir aussi comme ça, vas essayer de pousser un petit peu en ta faveur, en étant parfois amené à faire un petit peu de roleplay aussi pour aller parfois même dans un sens qui est complètement à l'encontre de tes convictions personnelles, hein, qu'elles soient politiques ou non. Et, et je trouve ça assez intéressant. Enfin, moi, j'aurais été curieuse de savoir... pourquoi ils se sont dit tiens on va faire un jeu comme ça et si c'est parti d'un délire complet à la base uniquement pour critiquer la religion ou s'il y avait une vraie idée derrière pour qui a déclenché en fait cette envie de faire les choses dans ce sens-là avec une présentation qui peut sembler un peu étonnante mais qui derrière quand même une fois que tu creuses un petit peu je pense qu'il y a quelque chose qui peut en ressortir et je serais curieuse d'essayer quand même.
Ouais, je pense qu'il y a surtout une volonté un peu sale gosse, un peu provoque, puisque on voit bien que même dans les autres jeux édités, tu vois, il y a les toboggans of Doom clairement.
Oui, mais là qui est quand même complètement à part quoi, tu vois, enfin derrière
qui est plus rigolo.
Oui, c'est rigolo. Derrière, tu peux pas rigoler si tu veux de la même manière avec des lois et avec la religion, tu vois, il y a forcément une attente derrière tout ça et je serais vraiment curieuse de savoir à quel moment ils se sont dit tiens on va se lancer là-dessus et c'est très assez surprise de ce genre de thème et de la façon dont c'est abordé et dont c'est présenté même s'il semble avoir pas mal de défauts, je pense qu'il y a une base qui n'est pas complètement inintéressante et inexploitable. Hein.
Mais ouais, ou pareil, le côté sale gosse se ressent dans Suicide Bomber Card Game, là.
Oui.
Oui. Ça, c'est vraiment, tu vois, on prend tous les sujets ultra chauds, tu vois, et on en fait des jeux de société pour provoquer, tu vois, c'est un peu ça.
Et toi, t'en penses quoi, Pionfesseur ?
Bah, du coup, moi, comme je vous ai dit, c'était surtout pour parler de ce sous-genre que je vois très souvent dans les nanars. C'est les jeux religieux, mais qui sont critiques de la religion, parce que vraiment les Américains sont vraiment très obsédés par la religion en général, et ça se voit dans les jeux de société. Vous voyez, c'est pas le genre de jeu qu'on aurait beaucoup chez nous, parce que c'est pas tant un sujet, tu vois, même pour provoquer, tout le monde s'en foutrait, je pense. Que là, du coup, bah, voilà, vous voyez, c'est un peu les deux faces de la religion. T'as d'un côté les jeux genre blasphémie qui sont pro-religieux, et puis t'as les jeux comme Ten Commandments qui sont des espèces de parodies un peu rigolotes, quoi. Mais on en avait parlé.
L'impact n'est pas le même, ouais.
L'impact n'est pas le même. Et on en a déjà parlé un petit peu dans Moscopoli, où son auteur, dont j'ai oublié le nom, avait fait aussi un petit jeu comme ça sur les commandements de la religion catholique et tout ça. Mais après, moi, c'est surtout que ce qui fait que je choisis un nanar, c'est aussi à quel point ça me fait tomber dans un rabbit hole, comme disent les Anglais.
Ouais.
Vous voyez, un iceberg de... Je commence à creuser, puis je fais, mais attends, lui, c'est lui. Mais lui, attends, il a fait un jeu avec le mec de Cheapass Game. Putain, mais attends, elle a fait des bouquins de stratégie de vampires incroyables et tout, tu vois. Donc, et puis, voilà.
Ouais,
puis
trop bien.
Tout ça pour arriver à Toboggan of Doom, évidemment. Enfin, voilà. C'est
quand
ça fait des petites
ramifications. Maintenant que tu en as parlé, tu peux plus le présenter pour un prochain nanar.
Ah non, non, bah non. Ce sera un nanar bonus, peut-être.
Mm.
Pour les tipeurs. Non, mais justement, ça me permettait aussi d'en parler, voilà. Mais par contre, sur le gameplay, je trouve aussi qu'il y a des idées intéressantes. En fait, moi, ça me fait penser à Demo Crazy de Bruno Feduti, qui est un jeu où tu votes les règles, en fait, en gros. Mais c'est à peu près le même principe. Sauf que Demo Crazy, je pense, le fait d'une manière bien mieux, puisqu'en fait, il le fait avec un espèce de choix simultané, avec du bluff et tout ça. Alors que ici, c'est censé être un jeu de négociation. Je vous rappelle, il y a quand même une phase où on est censé négocier, mais en fait, c'est ce que disaient les gens dans les commentaires. Je veux bien négocier, mais en fait, il y a quoi à négocier? Parce qu'en fait, on peut rien s'échanger dans le jeu.
Ouais.
C'est juste, est-ce que je vote pour toi, je vote pas pour toi, tu vois, mais qu'est-ce qu'il y a à gagner en retour? Pas grand-chose. Puis de toute façon, je ne suis pas obligé de m'engager sur les négociations. Je place mes pions face cachée et je fais ce que je veux. Donc en fait, c'est juste trop bizarre de faire une phase de négociation alors qu'en fait, on peut rien y faire. Et il y en a plein qui disaient que aussi, c'était très hasardeux le tirage des cartes, que finalement, c'était un peu celui qui piochait ses symboles qui avait le plus de chances de gagner, tout ça. Donc comme dit, ça, enfin, vous avez raison quand vous dites que ça part d'une bonne idée de gameplay, mais je pense qu'à chaque point de gameplay, à chaque idée de règle, il y a un truc soit d'équilibrage. Voilà, il y a un truc foireux, quoi. Tu vois, il y a un truc soit d'équilibrage, soit de conception qui marche pas, quoi. Voilà, voilà.
Ouais, même en ayant fait deux versions, il y avait moyen de l'améliorer encore, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais je suis quand même fasciné par les deux jeux, tu vois, et. J'avoue que tu vois, ce serait le genre de jeu, si ce serait facile à le trouver en France, je pense que je m'en procurerais au moins un des deux, tu vois, juste pour voir. Juste pour,
parce que là, t'as pas réussi à trouver tout le visuel des cartes.
Non, trouvé que les scans que je trouvais sur le net, quoi.
Le problème de l'épaisseur des cartes, ça, je pense qu'on
peut
trouver autre chose. Mais bon, si déjà on avait tous les visuels, ça pourrait aller.
On pourrait essayer de trouver des points communs entre toutes les différentes vertus et puis les descriptifs de loi et tout ça.
Oui, tu
encore un travail à temps plein.
Oui, oui. Tu sais, tu fais vraiment le wiki des jeux Bucephalus Games. Tu réassocies chaque carte à l'ancienne version et à la nouvelle. Je suis sûr qu'il y en a sur BoardGameGeek qui ont déjà fait ça pour d'autres jeux, en vrai.
Là, je suis en passe de terminer ma collection d'Istari. Je passe à Bucephalus Games juste après. Heureusement, ils n'ont pas fait les 37. Il n'y en a que 18 à trouver.
Ok. Bon. Eh ben, c'est cool. Bah, écoutez, je pense qu'on va conclure sur ces belles paroles.
Oui. Que dire de plus?
Eh oui. Donc, si vous avez aimé cette émission, dites-le nous dans les commentaires. J'ai proposé de commenter sur plein de choses, donc vous aurez de quoi dire, je pense. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Hein. Quand quelqu'un vous cite Top 10, vous lui dites « Ah oui, Top 10, le jeu de Bucephalus Games ». Puis comme ça, il vous pose la question et puis vous le renvoyez vers Nanar Ludique. Oui, c'est malin. Donc, vous pouvez aussi partager cette émission sur les réseaux sociaux. Nous, on est sur Facebook, Twitter, Blue Sky, Mastodon, Instagram. On a aussi un Discord que vous pouvez rejoindre si vous voulez venir discuter ou m'envoyer des références pour trouver ce jeu en France, peut-être. Donc, n'hésitez pas à venir en discuter. J'ai parlé des commentaires, mais j'ai pas donné le site. Le site, c'est podcast.proxy-jeu, proxy avec un i, jeu avec un x. Je dis ça parce que vous pouvez aussi y trouver un lien vers notre PayPal si vous voulez nous faire un petit don et rejoindre la grande communauté des donateurs et donatrices. La semaine prochaine, vous entendrez les chroniques. Y aura qui ? Y aura moi, Mad, t'y seras, toi, je crois.
Oui, j'y serai, oui.
Forcément au moins en présentatrice.
Ouais, mais même pour raconter des bêtises, ouais, je suis toujours présente.
Cadu, c'est toi, on t'entendra plutôt dans Un jeton dans la mare.
Oui, c'est ça.
Qui arrivera courant juin. Courant juin.
Mi-juin, ouais. Mi-juin. Ouais. Le prochain mi-juin.
Très bien. Eh ben, en tout cas, ce sera le dernier nanar ludique de la saison. Donc, on se retrouve la saison prochaine pour des nouveaux nanars ludiques. Et donc, eh bien, d'ici là, jouez bien.
Et plus tard, sur mon chemin, j'ai rencontré en fait des hommes, dont un qui a écrit un livre qui s'appelle Voir Dieu et qui m'a envoyé son livre dédicacé au grand monarque et qui m'a dit, mais sais-tu en fait que l'étoile Aldébaran, c'est l'étoile où il prépare les messies. Donc, c'est, donc en fait, Gorgé le Roumain, dont je vous ai déjà parlé, m'a indiqué en fait que sur Aldébaran, il y a des laboratoires de préparation de surhommes, et m'a indiqué que moi-même, je serais un surhomme, en fait, mélange entre un homme-oiseau et un homme-loup. Ça veut dire, en fait, entre les deux clans ancestraux que sont les loups-garous et les vampires. Et c'est pour ça que, quand je vous ai parlé du réseau Agartha tout à l'heure, des cités de lumière intraterriennes, donc les druides de Brocéliande que j'ai rencontrés en forêt de Brocéliande, à Pimpon, en Bretagne, m'ont dit qu'ils me connaissaient. Ils m'ont dit, mais t'es le seul homme sur la planète, en fait, qui peut trouver et ouvrir la porte de la nouvelle Agartha. Et ils m'ont demandé de le faire. Donc je l'ai fait pour eux, et comment je l'ai fait ? Ben, je suis allé dans une grotte, ici, dans la région, autour d'Arc. Et depuis cette grotte, en fait, j'ai demandé dans l'énergie aux deux clans, donc les loups-garous et les vampires, de venir à ma rencontre pour sceller un pacte de paix. Donc c'est le même processus que j'invite...